Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui coulole. Un jeu de mots super pourri, mais c'était un petit peu pour nous mettre dans l'ambiance. Aujourd'hui, nous fêtons les 1 an du podcast. Ça fait 1 an qu'on existe, 1 an qu'on a un nom improbable, 1 an qu'on a un nom dur à trouver, je pense, sur Internet. Mais bon, c'est pas grave, on en est fiers. En plus, c'est un peu mégalo, surtout moi, donc j'en suis encore plus fier. Et pour fêter ces 1 an, et puis pour fêter Noël aussi, parce que c'est bientôt Noël, enfin, ça le sera quand vous entendrez ce podcast, nous avons des invités exceptionnels, comme le diraient certains autres podcasts, des invités célesto-cosmiques. Nous recevons Le Gang, l'équipe des scénaristes de la bande dessinée Les Geeks, aux éditions Soleil. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Salut.
Mais bien sûr, pour les accompagner, encore plus exceptionnel, j'ai toujours mon compère Thio qui est là, avec qui je partage un micro.
Hello.
Et donc, c'est une émission un peu spéciale. On va essayer de refaire au fur et à mesure du temps de plus en plus d'émissions avec des invités. Le but, c'est pas de faire des émissions avec des interviews classiques. Il y en a qui le font très très bien. Il y a d'autres podcasts qui font ça très bien. C'est plutôt de parler de BD, d'avoir un côté un peu convivial, un côté sympa. On est autour d'un verre, on a plein de trucs pour faire du bruit, pour manger. Et on va attaquer. Donc le tome 6 des Geeks est sorti il y a maintenant plus d'un mois, si on est en décembre, ouais, c'est ça à peu près. Hein. Le calcul du temps est un peu difficile il y a un mois. On a déjà parlé dans deux de nos émissions des tomes précédents. Et puis on va commencer à poser un peu quelques questions à nos invités. J'espère que vous trouvez l'accueil pas trop mal.
Ça va. C'est bien à boire, à manger, à DBD, ça va. On se sent chez nous.
Très bien. Alors voilà, déjà moi j'avais une question toute simple. Vous êtes une équipe de 5 scénaristes, ce qui est énorme, qui est super rare. Vous travaillez avec un dessinateur et un coloriste classique. Trouver des infos sur vous sur Internet a été super dur. J'ai vaguement trouvé une info d'une interview de Harleston qui annonçait comment était composée l'équipe, qui m'a permis de faire des recherches derrière sur si vous aviez fait autre chose en BD. Mais alors, c'est vraiment pas facile. Comment est-ce que vous êtes retrouvés à tous travailler ensemble sur ce projet? L'équipe s'est formée, en fait.
L'équipe s'est formée un petit peu autour de Mélanie et moi, donc, puisqu'on bossait déjà chez Soleil et avec Harleston, donc, donc on a eu l'idée de faire cette BD-là. Mais comme on n'était pas non plus les plus geeks du monde, on a joint à l'équipe donc Manu, Pen et Mog, qui étaient nos amis, mari, frère et autres. Et donc, du coup, pour faire un groupe qui serait capable de parler des geeks et de faire une BD sympa autour d'un groupe de geeks, justement. Donc ça tombait bien d'écrire ça à plusieurs aussi pour avoir un petit peu le point de vue de tout le monde. Et comme les geeks sont toujours très différents, qu'il y a des geeks d'un peu tous les types, on trouvait ça pas mal.
Puis les filles peuvent amener leur technicité pour faire les gags et puis les mecs leur geekitude. À la base, c'était ça.
Mais donc, en gros, vous étiez toutes les deux déjà dans le monde de la BD et alors vous, rien à voir. Les garçons.
Absolument, rien à voir. On a tous un vrai travail.
Comment dire ? C'est ça, oui.
Voilà, on a un vrai travail et donc on travaille sur la BD en plus, à côté ou au boulot, des fois un peu.
Mais ils étaient fans de BD quand même, quoi.
Oui, voilà. On en lisait beaucoup.
Par contre, c'est effectivement pour. Pour nous trois, en tout cas, les premières planches qu'on a écrites. Le tome 1, on était vraiment au niveau 0. Donc on a fait ce qu'on a pu.
D'accord.
Avec l'aide d'Harleston qui nous a quand même pas mal aidé au début pour nous briefer.
Ouais, c'est...
Et surveiller ce qu'on écrivait.
D'accord, il était là pour vous coacher au début. C'était voilà. Votre première BD à vous deux en tant que scénariste ?
Non. Pas pour moi, mais
moi j'avais fait quelques planches dans des collectifs BD ou alors une histoire courte dans l'Enfest Mag, mais niveau album vraiment sorti comme ça, c'était les premières planches aussi.
Moi d'accord. Je travaillais déjà avec Harleston sur des co-scénarisations d'autres bouquins, mais pas du gag.
D'accord, oui, c'est un exercice un peu différent.
C'est totalement différent.
Je pose la question suivante.
Au niveau de la méthode de travail, comment est-ce que vous fonctionnez pour faire les gags, pour penser, on va dire, chaque planche au départ?
Alors, c'est très technique.
On se fait une soirée, on boit beaucoup et...
On se fait une soirée, on boit beaucoup, comme l'a dit Mélanie. On essaie d'imaginer des thèmes ou des situations qu'on liste. Et ensuite, on repart chacun dans notre coin et on va essayer de piocher dans ces thèmes-là de manière à proposer des pitchs, donc quelques lignes pour expliquer quel va être le script du gag. On discute autour de ce pitch. Une fois qu'il est validé, on le découpe. Donc on dit case 1, il se passe ça, il y a telle personne qui dit ça, etc. Donc là, on revalide le découpage. Une fois que c'est fait et qu'on en a un certain nombre, on envoie tout ça à Thomas, notre dessinateur, qui nous fait un storyboard qu'on valide. Ensuite, il passe au noir, quoi, du moins il le dessine et il l'encre. On revalide. Christian Lerolle, notre coloriste, le colorie, met des petits logos, les petits dessins sur tout ce qui est t-shirt et tous les détails qu'on apprécie. Et ensuite, on revalide une dernière fois. Donc, c'est quand même assez lourd comme processus.
Et tout ça sur Google Wave en plus.
Enfin, voilà.
Voilà, on a travaillé au début avec un forum, donc puisqu'on n'était pas tout le temps ensemble, hein, on ne peut pas se réunir pour discuter de chaque gag. Donc, tout ça se faisait au début par un forum et ensuite par Google Wave. Donc, on est très triste d'ailleurs que Google Wave va fermer.
Ouais, on va être SDF.
On ne sait pas trop comment on va gérer la suite. Mais du coup, effectivement, ça nous prend pas mal de temps puisque. Il faut que chacun valide le pitch, peut-être pas tout le monde, mais il faut que le gag, on soit tous d'accord pour dire c'est bon, on le valide. Donc il y a beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'avis différents, parfois des discussions un peu échauffées. Et donc voilà, ça prend pas mal de temps, effectivement.
Mais chacun gère son gag, en fait, voilà, on n'est pas plusieurs à écrire un gag, chacun a écrit son propre gag et les autres, des fois, aident ou commentent, mais on est chacun responsable de nos propres gags.
Donc, j'imagine que vous jetez beaucoup de gags à être 5 à valider.
Finalement, pas tant que ça, parce qu'en général, il y a toujours une bonne idée derrière. Donc, des fois, on essaie de les retravailler et ils changent par rapport à ce que la personne qui avait prévu au départ imaginait. Mais sinon, c'est bon, pas tant que ça, en fait.
Non, oui. il y en a peu qui sont abandonnés complètement, mais par contre, il y en a beaucoup qui sont remaniés lourdement.
Il y a les geeks à la pêche que vous m'avez refusé, pour le tome 3.
C'est vrai.
Qui n'est toujours pas là, mais je continue à travailler dessus. Mais celui-là...
Il nous le ressort des cartons à chaque tome. Voilà. Et celui-là?
Non, mais il y a des gags qu'on a pitchés au tome 2 et qui sortent au tome 6 parce que on a trouvé ou la bonne chute, finalement, ou ce genre de choses.
C'est vrai que souvent, on bloque sur des gags qu'on écrit comme ça parce qu'on les trouve drôles, et puis d'un coup, on se dit « Ouais, mais attends, en fait, finalement, ça n'a pas grand-chose de geek, tout ça, parce que des fois, on se laisse emporter par le quotidien de nos personnages et qu'il y a des gags qu'on écrit qui porteraient plus sur juste le quotidien des persos. » Et on s'autorise à en mettre quelques-uns dans les albums pour faire avancer un petit peu aussi les persos et pour enrichir l'univers, mais on ne veut pas trop en mettre non plus, on veut rester sur des gags qui ont une thématique geek, voilà.
Pareil également, on essaie de ne pas mettre des gags trop pointus au niveau geekitude, soit sur l'informatique, soit sur la science-fiction, ce genre de choses, parce que on ne veut pas non plus faire des albums trop élitistes. Donc il y a un mix de gags pas très geek, de gags très geek et de gags moyennement geek.
T'as noté que c'est élitiste et geek, tu vois.
Ouais. Oui, c'est pas évident. C'est pas XKCD, on en reparlera tout à l'heure.
Voilà.
Mais c'est vrai que Mog, qui est pas là, par exemple, on peut en profiter pour parler de lui.
Disons du mal.
Est un hard geek, et donc il a tendance à poster des gags où des fois on comprend pas tout et on dit non, là, ça va pas passer, quoi. C'est lui qui fait en général les gags les plus trop geeks qu'on doit refuser.
Ou obscurs, en fait.
D'un autre côté, si vous ne les comprenez pas, c'est que quelque part, ils ne sont pas assez tout publics. Quoi.
C'est ça. On a l'avantage d'être à différents façon, niveaux de geekitude. Et donc...
C'est moi la blonde du groupe, donc en général, je dis « j'ai rien compris ». Et là, il m'explique gentiment.
Mais je pense que c'est un des trucs qui fait notre force, entre guillemets, quoi, d'avoir 5 points de vue et de tout regrouper, tout mélanger, toujours commenter et au final arriver à un truc... un ensemble de gags qui est, je pense, vachement meilleur que s'il était écrit par une seule personne avec un seul point de vue.
Ça nous permet aussi de tenir le rythme effréné, qui est bien soutenu par notre dessinateur et notre coloriste. Mais quand même...
ouais, d'ailleurs, parlant du rythme, vous avez un flux qui est quand même vachement tendu. Hein. Il y a un album tous les 6 mois, en gros, même plus, je crois.
À peu près.
C'est ça, tous les 6 mois.
C'est ce que veut notre éditeur, alors il nous fouette pour qu'on y arrive.
Non, parce que c'est costaud, quoi.
Thomas dessine vite et Christian a pas de problème pour la couleur. C'est vrai que, et nous on est 5 scénaristes, c'est pas un scénariste, donc ça fait 7 planches en moyenne par scénariste sur l'album. Donc 7 planches pour 6 mois, ça fait une planche par mois par personne. C'est pas non plus complètement délirant. Voilà, non mais voilà, on va pas faire des maths, oui. On est pas là pour ça, mais donc c'est jouable, voilà.
Puis c'est vrai que c'est important, bon peut-être moins maintenant, mais pour une série gag, donc d'un point de vue de l'éditeur, en général c'est utile d'avoir un rythme assez soutenu, au moins au départ, hein, pour que la série prenne. Après, on peut se permettre de laisser un peu plus de délai, mais finalement, une fois qu'on y est, ben, on a les rendez-vous un peu fixés, les lecteurs qui attendent les albums au moment où ils sont habitués à les avoir, donc on peut difficilement, après, s'en libérer.
Arleston est toujours à vous rechapoter derrière, ou vous avez gagné un peu d'indépendance avec le temps ?
Alors, on a gagné un peu d'indépendance avec le temps, parce que c'est vrai que sur le dernier album, hein, ou les deux derniers,
donc que sur le 6.
Que sur le dernier, il nous a laissé voler de nos propres ailes, d'abord parce que lui, il n'avait pas forcément beaucoup le temps de s'en occuper, et puis peut-être aussi parce qu'on était un peu plus au point.
On l'espère.
Au niveau des gags, enfin moi, donc j'ai lu que les deux premiers tomes, il y a des gags que j'avais déjà entendus ailleurs. Alors, je ne sais pas si des gens qui avaient lu Les Geeks qui m'en avaient reparlé. Est-ce que vous avez des sources d'informations, de gags, d'idées? Alors, je pense par exemple au Pepcac, au Vide-Merde, ce genre de choses-là, qui peuvent souvent amener des trucs bien geeks dans les idées. Est-ce que vous allez chercher par là, ou est-ce que ça marche plus par ce qu'on entend avec les copains, des expériences perso, hein?
Alors, ça marche. Oui.
C'est un peu un mix des deux, en fait, je pense, parce que.
Ça arrive qu'on. C'est pas tellement qu'on va chercher sur d'autres sites ou d'autres albums ou je ne sais quoi, mais c'est plus que c'est des fois des trucs qui sont dans l'air de temps ou qui tournent ou des blagues qu'on entend à droite à gauche qui peuvent effectivement des fois nous donner une idée. Mais on essaye toujours de rajouter un peu quelque chose en plus ou de. Le fait qu'on ait un univers et des personnages qui existent déjà, ça fait que, appliqué à notre univers et à nos personnages, ça donne toujours une situation un peu différente. Mais oui, je pense que.
De toute façon, il y a des situations du quotidien où, quand on est entre nous, où, voilà, on se dit, ah non, mais ça, c'est. Voilà encore un gag de geek, hop, il faut qu'on le note. Puis après, il y a des fois. Moi, je sais que ça m'arrive des fois de balader sur vie de merde. Et puis. Parce que si je sais que j'ai un gag à écrire, je me dis, tiens, allez, on va parcourir un peu, voir ce qui me fait rire. Et puis. Puis voilà, mais c'est un peu des deux, je pense.
Je pense quand même beaucoup le quotidien. Enfin, c'est la source principale, c'est quand même le quotidien. Après, il y a évidemment tout ce qu'on dévore, on dévore tous, donc des BD, des films, des séries, beaucoup de séries, je crois,
ouais.
Qui sont peut-être l'inspiration majeure, en fait, pour nous tous. Je pense que c'est plus des séries que des sitcoms, en fait, que des BD. Et, mais au final, ouais, c'est quand même le quotidien, on bosse tous les trois dans l'informatique, quand même, les trois gars, donc ça fait un paquet de situations
Et nous, on vit avec des geeks autour de nous, donc ça suffit aussi pour tous les gags entre Fred et Julie, ou ce genre de choses-là. Oui. Il y a de quoi faire.
C'est vrai que moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup beaucoup de gags. Enfin moi me font sourire mais un peu jaune et qui je pense marcherait beaucoup plus au niveau du rire franc hein, avec des amis de geek. Là je parlais tout à l'heure d'un gag. Je l'ai montré à ma femme. Elle a fait ah bah oui c'est tout à fait ça. J'avais presque honte parce que donc c'était un des strips du tome 6.
Il y a souvent les copines de geek, ça marche pas mal apparemment. On a souvent des commentaires, sur le site. Souvent, on en a eu un, je sais plus qui disait non mais arrêtez de, vous avez des caméras chez nous, c'est pas possible.
C'est
notre vie qu'il y a dans la BD quoi. Voilà. Donc ça évidemment ça revient beaucoup et c'est logique hein, puisqu'on a notre quotidien qui est probablement le même que celui de beaucoup de geeks. Donc effectivement il y a des gens qui s'y retrouvent souvent. Quoi.
Mais c'est vrai que c'est encore un intérêt d'être nombreux et d'aborder différents sujets, c'est que c'est pas un album qui est fait que pour les geeks, ça peut être pour les copines de geeks, les copains de geeks, la famille des geeks, pour essayer de mieux les comprendre et d'en rigoler, quoi, voilà. Mais en même temps, on se moque gentiment de nous-mêmes sans que ce soit très méchant pour les geeks non plus, en général.
Et au niveau des personnages, c'est est-ce qu'il y a peut-être un personnage de la BD qui ressemble, on va dire, à chacun d'entre vous ou...
Oui, bah surtout sur les premiers personnages. Après, on en a rajouté quelques-uns pour étendre un petit peu l'univers geek, notamment Sibi et Arnold qui sont arrivés plus tard. Mais sinon, sur le groupe de départ, oui, on a un peu chacun un personnage.
En fait, on s'est réparti les personnages. Chacun d'entre nous gère plutôt un personnage en général. Après, ça, c'est pas.
Ça veut pas dire que chacun voilà, fait des gags que sur un personnage, mais voilà. Puis on a récemment créé les pages Facebook des personnages aussi, donc là, c'est pareil, chacun gère la page du personnage qui lui correspond le plus.
Pareil pour les adresses mail.
Pareil pour les adresses mail.
Oui, j'avais été surpris de voir les adresses mail des personnages. C'est dans le tome 2, justement, il y a les fiches de perso qui arrivent, enfin au début, qui décrivent un peu. Est-ce que ça vient d'une remarque qu'on vous a faite? Parce que moi, c'est vrai qu'en lisant le tome 1, j'avais du mal à vraiment savoir quelles étaient les particularités de chaque perso, en fait.
Oui, il y a un moment où on s'est dit, le premier album, c'est vrai qu'on est parti un peu en vrac, il y a un moment où on s'est dit, ce serait bien de recadrer un peu, même parce que ça permet d'avoir une source de gag plus claire, de dire, lui, il est comme ça, donc dans telle situation, il réagira de telle manière.
Mais c'est vrai qu'on nous avait fait la remarque de la caractérisation des persos. Et, donc, voilà,
et puis pour le 2, c'est pratique d'avoir un rappel, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le 1, d'avoir une base. Oui, sur voilà, qui sont les persos d'où ils sortent.
Previously on Les Geeks.
Voilà.
Astérix l'a fait sur 40 albums, donc.
Oui.
On s'est dit que c'était une bonne idée. C'était vendeur.
J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de vos gags qui collent vachement à l'actualité, mais qui en collent tellement qu'ils vont vite faire vieillot. Alors je pense notamment à certains gags sur l'iPhone qui est que chez Orange, on va jailbreaker. Mais j'ai pas le forfait, etc. Enfin, des gags qui sont très liés à l'actualité. Vous n'avez pas peur en faisant ce genre de gags que vos albums, avec le temps, se retrouvent à faire vraiment passer? Parce que c'est vrai que c'est une blague qui, hors contexte, peut être difficile à saisir.
Vas-y.
En même temps, on n'a pas trop le choix. Je pense que c'est aussi une force d'avoir ce retour-là sur l'actualité, parce que les geeks, ils sont toujours à l'affût des derniers trucs qui sortent, de ce qui se passe, et c'est un petit peu aussi ce qu'on essaie de faire et ce que ce flux tendu nous permet de faire, parce que on sort tellement près du moment où on écrit le dernier gag qu'on peut avoir des gags qui portent vraiment sur des trucs qui viennent juste de sortir et donc on aura un album qui parlera d'un truc qui vient de sortir le mois d'avant.
C'est forcé, enfin c'est inhérent vraiment au truc du geek, parce que forcément on regarde des séries. Voilà, c'est le dernier truc qui sort, donc on est obligé, en fait.
Je pense que si on n'en parlait pas,
on pourrait pas faire des généralités sur.
Ça on est obligé de nommer ou la série ou le film ou l'appareil ou le nom de l'ordi ou ce genre de choses. Et c'est vrai que ça va passer avec le temps. C'est pas le petit Spirou ou Gaston Lagaffe qui sont quand même intemporels sur le sujet. Nous, on colle à des trucs et c'est le propre de l'informatique. Dans 6 mois, c'est dépassé.
Donc, en même temps, c'est peut-être vrai, mais voilà, on peut pas vraiment s'en affranchir, parce que je pense que c'est aussi une des choses pour lesquelles on nous félicite souvent, c'est de dire vous parlez vraiment de, il y a du détail, il y a vraiment des situations réelles, et sinon ça sonnerait faux, quoi, si on n'utilisait pas toutes ces références.
Il y a peut-être un effet aussi qui, je sais pas, il y aura peut-être un côté nostalgie en relisant les. Je me dis, en relisant les anciens tomes, alors je l'ai pas fait, c'est vrai que ça fait pas très longtemps là, c'est dur de se dire comment on verra ça dans 10 ans, mais je pense au rétro gaming notamment. On est beaucoup dans les jeux à se replonger dans des vieux trucs, ou voir des très très vieux trucs, donc je me dis pourquoi pas avec les geeks, peut-être on aura la nostalgie de la vieille époque où il y avait encore des Blackberry.
Donc on reviendra dans 10 ans pour les 10 ans du podcast et on reparlera du tome 1 des geeks.
Ouais. Dans 9 ans. Donc.
Ah oui, dans 9 ans.
Il y en a qui savent compter.
Là, j'y suis plus. C'était. Et au niveau donc des bandes dessinées, est-ce que vous faites d'autres travaux pour d'autres bandes dessinées, d'autres scénarios
Je sais que les filles, oui, c'est le cas. Mm-hmm. Vous, que dalle, rien. Ou vous avez d'autres idées ou des projets
Non, rien en cours en tout cas.
Des idées, mais pas assez de temps, en fait.
C'est déjà assez dur de les fouetter pour qu'ils fassent des gags.
Voilà, entre le vrai travail, l'écriture des geeks...
C'est celui qui rapporte des sous, c'est ça?
Voilà. plus que les albums.
Delphine, je suis tombé sur ton blog.
Oui.
Donc, où tu as des projets, d'autres projets de BD à côté.
Voilà, il n'y a rien qui est sorti pour l'instant. Il y a la première sortira chez Vent d'Ouest en janvier. Ça s'appelle Un héros presque parfait. Il y en a une autre qui suivra dans l'année, toujours chez Vent d'Ouest et avec la même équipe. Donc c'est Ludovic d'Anjou qui co-scénarise avec moi et c'est Philippe Fenech qui dessine. Et la deuxième s'appellera Ulysse et ce sera en juin, en août, on ne sait pas encore, c'est pas encore fixé. Voilà pour ce qui est signé. Et après, il y a d'autres dossiers en cours.
BD.
Oui, d'autres BD qui sont en cours de préparation.
J'ai pas compris, mais c'est pas grave.
Et voilà. Et sinon, je travaille également sur une. J'ai travaillé sur un bouquin pour une nouvelle collection qui va sortir chez Soleil, où là, c'est pas de la BD, c'est du roman. C'est un petit peu particulier, donc je vous en parle pas encore trop parce que c'est pas. Ça sortira en mars. Et voilà. C'est un autre projet qui est signé, qui est même terminé.
D'accord. Toi, Mélanie, par contre, t'as un peu plus de bouteilles de trucs derrière toi.
Ouais, j'en ai pas mal en cours.
De cadavres de bouteilles.
Ça va faire les réputations.
Ah ouais, non, mais ça va. Je t'en réserve une, tu verras, Pierre. Non, bah oui, moi, je suis sur les Chants d'Excalibur. J'ai sorti le tome 5. Là, on va sortir le tome 6 qu'on vient de terminer. Ce sera la fin de l'histoire. voilà. On va repartir sur notre
projet. Tu l'attendais bien, le Chant d'Excalibur, justement.
Voilà. Bah, ce sera le dernier. Voilà. Après, c'est fini. On repartira après sur un autre projet avec Eric Hubsch toujours. Et puis, j'ai le Tico des Sables avec Keramidas. On va faire le tome 3. J'ai le Nuit Safran. On a bien commencé le 2, on va dire. J'ai un autre album qui n'a rien à voir, qui s'appellera Chimère et qui va sortir chez Glénat et qui se passe dans les milieux des bordels au 19e siècle. Donc, c'est un peu différent de... Voilà.
C'est ni de l'aventure, ni de l'humour, donc, apparemment.
Exactement. J'ai un autre album qui est plus du thriller contemporain, qui s'appelle Bad, et qui va sortir en fin d'année prochaine. J'en ai plein. J'ai fait un bouquin dans la collection dont parlait Delphine tout à l'heure, mais dont vous ne saurez rien, parce que voilà. J'ai un autre projet de bouquin, alors cette fois de roman, que je vais commencer avec Pierre Bordage, voilà, parce que c'était rigolo, on a travaillé ensemble et puis ça nous a bien plu, et donc voilà.
Et on est des gros fans, tous, il faut le dire, Pierre Bordage, si vous n'avez pas lu ses bouquins, c'est le top.
Moi, ce qui me fait halluciner, c'est les personnes avec qui tu travailles quand même. Je vois du Dany, du... J'ai plus les noms, mais en tête, je les avais regardés tout à l'heure. Bah, avec du beau monde quand même au niveau BD.
Ouais, bah, Dany, en fait, c'était pas moi qui avais prévu de travailler avec lui à la base, puisqu'il voulait travailler avec Arleston, et puis ils avaient déjà un projet qu'ils avaient plus ou moins pitché, et en fait, voilà, on m'a greffé dessus parce qu'ils étaient un peu. Ils avaient un peu laissé traîner le truc dans les cartons, et ils savaient pas trop comment le redynamiser, et donc voilà. Arleston m'a proposé de bosser là-dessus, donc effectivement, c'était plutôt sympa. Et puis en plus, Dany, c'est plutôt un mec. Sympa aussi, donc ça tombe bien.
Oui, Keramidas aussi, ouais. Erengel.
Oui.
Ça me revient là, les noms. Enfin,
ouais, Eric Erengel, ça me fait bien plaisir. Puis oui, et aussi Eric Cartier. Alors là, c'est plus venu de moi parce que j'étais absolument fan de ces bouquins qui sont absolument pas connus, mais c'est pas grave. Et donc j'étais très contente de. Enfin, j'avais un projet que j'avais fait en grande partie moi, mais que bon, j'ai après développé avec Arleston. Et quand il s'est agi de chercher un dessinateur, ben voilà, j'avais envie de travailler avec Eric Cartier, donc c'est moi qui l'ai proposé et je suis très contente. Et puis en plus, je crois que l'album marche pas mal. Et Pierre se gave de bonbons et il essaie de faire ça discrètement.
J'ai une question pour
des
toi, moi, Mélanie.
Il
était question à une époque d'une adaptation d'Ambre. Est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, ou ça naît? C'est sorti, je l'ai raté, je sais pas.
C'est sorti et tu l'as raté.
Voilà.
Honte sur toi.
Voilà. Et ta famille.
Et ça a été fait par qui au final?
Et ben, ça continue en fait. Hein. Le tome 1 est sorti, mais c'est Jarry qui fait le scénario et Benoît Delac qui fait le dessin.
Et okay. Cette question a été posée à Mélanie puisqu'elle dirige la collection des adaptations de romans fantasy et SF chez Soleil,
qui s'appelle Cherche Futur.
Il y en a quelques-uns. Ouais, je ne sais pas pourquoi, pour moi, Ambre, de toute façon, je suis bloqué sur Florence Magnin. Donc,
Bah oui.
Effectivement, ça va être dur de reprendre. En même temps, pour moi, c'est la plus grande série de tous les temps en bouquin. Quoi. C'est mon truc vraiment favori. Et je suis curieux de voir ce que ça peut donner en BD. Quoi. Ça va être dur, hein, mais...
Faudrait que je les lise.
Mais voilà.
Oui, puis quelque part, Florence Magnin en BD, elle en a fait aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté aventure, peut-être, dans Les Princes d'Ambre, qui fait que c'était pas forcément le... Elle est très douée en illustration, elle fait des choses magnifiques. Et c'est vrai que sur le tarot, elle a très bien illustré, je pense, pour tout le monde, cet univers-là. Mais Après, c'était légitime aussi de faire travailler, je pense, à notre dessinateur sur le sur une série qui reprenait tous les tomes.
Surtout que je pense qu'il y a d'ailleurs aussi avoir une question de rythme de dessin. Je suis pas sûr que Florence Magnien, vu son style de dessin, puisse faire un rythme qui permette de faire une adaptation pérenne de la série sur le long terme.
Puis en plus, les illustrateurs sont pas forcément, en général, sont pas très très bons pour ce qui est de faire de la BD, parce que c'est un format vraiment différent. Enfin, il y a une narration. Le problème des BD d'illustrateurs, souvent, c'est qu'elles manquent de... Ouais, il manque le côté narration, quoi. Il y a de la belle image, mais ça fait pas vraiment une bonne histoire, quoi.
Bah, d'ailleurs, Manu, tu disais que toi, Florence Magnien était une dessinatrice
avec qui tu as travaillé. Oui, c'est vrai que je l'ai cité.
Tu as parlé de Marie Lanoir.
Effectivement, dessin. Marie Lanoir, puis les autres, d'ailleurs. Il y a un truc avec Émilie, là. Une autre BD dont je me souviens plus le nom. Ouais, l'héritage d'Émilie, ouais. Et il y en a une autre avant, qui est sortie un peu avant ou après Marie Lanoir. Et j'adore le style graphique. Alors, j'ai découvert effectivement avec Ambre. Et il y a un très beau bouquin d'ailleurs sur Ambre qui illustre plein de choses avec des grands illustres. Et ouais, si un jour j'écris un truc et que je devais choisir un dessinateur, effectivement, ce serait peut-être pas le premier choix, mais ça dépend complètement de ce qu'on écrit. Après, c'est vrai qu'elle a tout ce qu'elle fait. Est relativement statique, quoi. C'est pas un... Voilà.
Ouais,
ça
moi, je vois ce
mouvement de dynamisme. Ah, ça, ouais, on est d'accord.
Moi, surtout, ce qui m'avait choqué, c'était le lettrage, en fait. Les bulles ont l'impression de casser le dessin.
Ah,
casser
ça me dit rien du tout. Ça, j'ai rien remarqué, par contre.
Ah, ouais, moi, les bulles dans ces bandes dessinées m'ont choqué. J'avais l'impression que c'était pas intégré, que ça faisait pas partie du truc. C'était un truc qui avait été posé dessus.
Qui a été collé par-dessus.
Voilà. Mais c'est pas évident, parce qu'en même temps, elle a un style tellement recherché, fouillé. C'est vrai que du coup, c'est pas...
Non, je t'arrête une seconde pour un truc important. Faites tourner les haribots, là.
Bon, on va pouvoir commencer à parler un peu des BD. Donc, je vous ai posé quelques questions. Vous m'avez presque tous répondu. Je ne dirai pas qui n'a pas répondu, mais ce n'est pas grave.
Ah, mais on va pouvoir dévoiler ce qu'on a répondu.
Alors, en gros...
Moi,
nous,
c'était
on a...
top secret. Hein.
Ah, zut. Enfin, on en a sélectionné quelques-unes. Le but, c'est que vous en parliez. Vous nous disiez ce qui vous plaît dedans, ce qui ne vous plaît pas. Pourquoi est-ce que vous les avez choisis. On n'a pas forcément lu tout ce dont vous parlez, donc on va pouvoir jouer un peu les naïfs là-dessus. Et on va commencer un peu par les choses un peu récentes qu'il y avait dans votre sélection. Il y en avait deux choses récentes. Vous avez plutôt été sur les vieux trucs. Il y a donc Delphine qui nous a parlé du CHOSP de Barbucci.
Oui, CHOSP d'Alessandro Barbucci, c'est génial.
Alors, achetez-le. C'est tout ce que tu as à dire.
Achète.
Alors, qu'est-ce que ça raconte?
Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui est un petit peu différent, parce qu'il déjà il vit dans une ville très particulière, qui est une ville où tout le monde est beau et où tout le monde doit être beau. Donc le chirurgien esthétique, c'est un petit peu le chef de la ville, et le maire est un acteur, je crois, qui est très connu, sa femme est belle, enfin tout, voilà, tout le monde est beau. Et lui, Chosp, donc c'est un petit garçon qui se trouve être le fils de ce couple de gens beaux et célèbres, et qui trouve pas du tout sa place dans cette société, et qui décide de partir à la recherche de ses vrais parents, parce qu'il pense que c'est pas possible que ces gens-là soient ses parents, étant donné qu'ils ne le ressemblent pas. Donc le titre de l'album, c'est « Pouvoir aux moches », parce que c'est ce que veut faire Chosp. Et en fait, c'est une quête de ce petit gamin pour essayer de comprendre d'où il vient. Alors, il a une tête un peu bizarre, un petit peu de poisson, d'alien, on ne sait pas trop. Et donc, voilà, dans le premier tome, il va partir sur une piste avec sa copine Mélodie pour essayer de comprendre qui il est et d'où il vient.
Et sur les graphiques de Chosp, on reste sur... À peu près pareil que sur Skydoll ou...
Alors non, pas du tout, ça ressemble pas du tout à Skydoll. C'est, c'est un style... alors, c'est à mi-chemin avec le manga, un petit peu. En tout cas, c'est un format plus petit qu'une BD classique. Et c'est, je dirais, à mi-chemin entre du manga et un style un petit peu italien, Disney... Voilà.
Comme les qu'on voyait dans les Witch qu'il avait fait.
Ouais, non, c'est pas ça non plus. C'est encore différent. C'est très mimi, très joli. Il y a des pages, il y a que le début qui est en couleur, mais oui, c'est le classique un petit peu sur les mangas. Donc c'est vrai oui. qu'il est resté dans ce, il y a que la première partie qui est en couleur, une couleur qui ont été faites par Nolwenn Le Breton. Et bon, peut-être que pour les prochains tomes, il y aura plus en couleur parce que ça a un peu fait râler tout le monde.
Je trouve que ces tramages sont, enfin, je l'ai feuilleté, hein. Je l'ai pas lu, je l'ai feuilleté. Les tramages sont vachement sympas. Hein.
Oui, mais c'est ça. Ça, en tout cas, c'est vrai que ça gêne pas du tout à la lecture du tome 1 et on s'éclate quand même. L'univers vit sans problème. C'est bourré de références, même visuelles. Des fois, on passe sur une case ou deux, ou hop, d'un coup, ça nous rappelle quelque chose, mais juste visuellement, sans que ce soit cité. Ça peut être Mary Poppins, ça peut être, enfin, il y a plein de petites références comme ça. Et c'est surtout un scénar. Donc c'est quelque chose qu'il a fait entièrement tout seul. Hein, de A à Z avec beaucoup de pages, je sais plus combien, mais c'est aux alentours de 90 pages et donc il a c'est vraiment frais quoi, c'est une histoire super rigolote, c'est une aventure, c'est ça se dévore vraiment rapidement, un petit peu comme on peut faire avec les mangas.
Et c'est une série.
C'est une série.
D'accord.
Il y a un tome 2 qui est prévu et donc le thème, donc pour le tome 1 c'était plutôt la science-fiction, pour le tome 2 ce sera plutôt l'horreur et les gothiques. Donc on a vu quelques dessins, quelques crayonnés, ça a l'air très sympa.
Et c'est vrai qu'il s'éclate bien sur les références. Et le tome 2 sortira normalement en même temps que notre prochain tome des Geeks, puisqu'il va suivre le même rythme que nous. Donc.
Mais à raison de 90 pages avec scénario et dessin.
Exactement.
Ah, d'accord. Dur.
Pas pour lui.
Alors dans les trucs récents, il y a Manu qui nous a aussi parlé d'une semi-déception avec Black Summer.
Ouais, Black Summer, c'est vrai que c'était récent. Alors, Black Summer, en fait, donc j'en ai lu beaucoup de bien sur je ne sais plus quel site. J'aimais bien l'idée, et justement, ce qui m'a déçu, c'est le traitement de l'idée au final. Puisque donc, le concept de base, c'est qu'il y a des super-héros dans une ville, un groupe très puissant, et le début de la BD, je vais pas. C'est un petit spoil, mais bon, c'est les premières pages. Hein. C'est que le chef de ces héros massacre le président des États-Unis. Je sais plus si c'est les États-Unis d'ailleurs. Si, ça va être les États-Unis.
Ouais, enfin, et, tu peux spoiler parce qu'en fait, on a déjà quasiment tout raconté.
Vous en avez déjà parlé, ben voilà. Ouais, puis, comme ça, ce sera.
Quand tu regardes la couverture avec le bureau ovale. Hein.
Effectivement. C'est vrai que la couverture donne de bons indices. Bref, il vient donc de massacrer le président des États-Unis en disant que de toute façon, c'était un enfoiré, corrompu, etc. Et donc il sort lors d'une conférence de presse et il dit voilà, je l'ai buté, maintenant à vous de faire quelque chose, de réélire quelqu'un, de reprendre le pays en main. Et puis la suite, donc moi je trouve que ce concept de départ est génial, et puis la suite m'a vachement déçu sur l'histoire. Donc le dessin est super sympa, c'est qui a fait ça? C'est un Espagnol, je crois.
Juan
José Rip, voilà. Avec un look qui fait penser à du... Aidez-moi, comment il s'appelle
hein? Geoff Darrow.
Ah, Geoff Darrow, voilà. À du Geoff Darrow. Et donc, le dessin est super. Il hein. N'y a rien à dire. Ça bastonne bien. Mais au niveau de l'histoire, je trouve que c'est vachement décevant, quoi. Voilà.
Pourtant, t'as l'air. Enfin, je vois tout ce que tu nous as parlé. T'as l'air d'être un gros fan du scénariste Warren Ellis.
Alors, j'aime bien Warren Ellis, ouais, effectivement. Mais bon, ça, il peut se planter comme tout le monde. Après, c'est peut-être, oui. C'est peut-être juste moi qui ai trouvé ça décevant au niveau de l'histoire. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je me souviens pas.
Moi, j'avais bien aimé. Et toi, tu t'avais bien aimé aussi.
Aussi
ouais, on avait trouvé ça sympa.
Je sais pas si vous avez lu. Il y a No Hero qui est sorti.
Oui,
aussi,
on l'a lu aussi. On
pas vraiment une déjà. Suite, mais dans le même trip. Et alors, c'est encore plus délirant et vaguement décevant aussi. Enfin, c'est vraiment, ça part dans du délire aussi, encore avec des super-héros. Un gars qui crée les super-héros avec des expériences biologiques, en fait, et qui, au final, se révèle être pas vraiment des super-héros gentils qui sont là pour le bien du monde. C'est le même dessinateur, le même trip très violent, encore plus violent, avec beaucoup de bastons. Mais voilà, au niveau des histoires, moyen.
On a l'impression que c'est que quand Warren Ellis est en roue libre, c'est l'impression qu'il donne. Là. C'est pour faire un peu tout ce qu'il veut, tout ce qu'il essaye de faire passer chez les autres, chez Marvel en général ou Image. Et que,
c'est clairement beaucoup moins structuré, classique. Voilà, donc semi-déception.
Ok. Là, on va faire un truc, c'est que ça a presque cafeté, mais bon, on va un peu parler à Mélanie. Il y a un truc récent que tu as lu, qui t'a bien plu ?
Non, mais en fait, je lis pas de BD.
Tu lis pas de BD ? Attends, t'étais éditrice, quelque part, directrice de collection. Tu lis que les BD que tu...
Mais non, mais c'est vrai que je suis dans la BD toute la journée, et donc j'en lis peu, en fait. Je m'en rends compte, j'en lis de moins en moins. C'est un peu...
D'accord.
Mais trucs récents en plus, il n'y en a même pas qui me viennent à l'esprit, mais je sais pas, aidez-moi. Il y a un truc bien qui nous serait passé entre les mains. Et... Non.
Non, mais on reviendra quand on va arriver sur la rubrique des gros classiques. Et je pense qu'on voilà, la trouve un peu plus facilement.
Ça, en fait, je suis
ou
tout
des
le
trucs
temps...
que tu n'as pas aimé, peut-être, non ? Il y a peut-être des trucs que tu as détestés.
J'ai du mal à retrouver des trucs. Enfin, des trucs qui m'enthousiasment vraiment, c'est de plus en plus difficile.
Puis en plus, en tant que directrice de collection, ça ne doit pas être évident forcément de parler d'autres choses que tu ne fais pas. Tu dois avoir un point de vue qui est un peu différent sur ce qui te tombe
ouais,
sur les mains.
Ouais, j'imagine que c'est comme quand tu regardes un film sur un truc que tu connais par cœur, tu vois que les défauts, que les trucs qui ne sont pas possibles. Bah là, c'est un peu le concept, quoi.
Ouais, j'ai eu le truc sur un expert où il remontait une IP qui était 357, 162, 15...
Ouais, c'est du classique.
Voilà.
Le truc qui n'est totalement pas possible pour ceux qui ne sont pas geeks dans les auditeurs.
Non, mais c'est vrai. En plus, on lit tout le temps les albums des copains, finalement. Et puis, voilà, quoi. J'ai du mal à aller dans les librairies. J'y vais de moins en moins. C'est horrible. Je vois plein de trucs, mais je connais plus rien,
en fait.
Sur une
thérapie.
Faut y aller, maintenant. Il y a les geeks en librairie. Tu y vas et tu les prends et tu les mets partout sur toutes les piles pour qu'on voit plus que ça.
Ouais, ouais.
C'est ça... la saison.
C'est ce qu'ils ont fait cet après-midi, donc ils peuvent le dire.
Ah, ça, je trouve ça excellent comme principe. Je pense que vous devez bien vous amuser. Prenez des photos après de l'étalage totalement.
Également. On a même fait un concours sur Facebook cet été où on demandait aux gens d'envoyer leurs photos de librairies ou de rayons de supermarché ou de
remplis de BD.
Remplis de BD. Voilà.
En fait, la première qui nous a donné cette idée-là, c'est la mère de l'un d'entre nous qui l'a fait sans qu'on lui demande dans un petit supermarché de Corse. Et on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée finalement. On va faire pareil.
Voilà.
Il y avait assez de BD dans le supermarché en Corse pour pouvoir le faire.
Oui.
C'est déjà pas mal, hein, que vous ayez assez de BD de Les Geeks pour pouvoir faire ça dans un supermarché en Corse.
C'était sur une des opérations de l'été, donc.
D'accord.
Il y avait de quoi faire.
Mais on va attaquer le rattrapage.
Et donc Delphine, tu nous as parlé de Roscoe le Rouge.
Oui, Roscoe le Rouge. Fabuleux. Vous connaissez pas alors ?
Non. Non, on a regardé un peu les images. Enfin, moi, ça me fait penser à du Ratafia.
Oui, sauf que c'est sorti avant Ratafia, je pense. Le premier, en tout cas. Et alors, j'aime bien Ratafia aussi, mais Roscoe le Rouge, ça a juste un humour beaucoup plus décapant, en tout cas qui me correspond mieux. Et bah, c'est super rigolo, d'autant que dans le tome 1, j'étais tombée amoureuse de tous les petits pingouins qui envahissent le bateau à un moment de l'aventure. Voilà, c'est fait par Jean-Louis Marco, qui fait à peu près tout seul, je crois. Et bah, c'est super sympa. Que dire de plus
ça raconte quoi, déjà ? Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout. J'ai juste vu les dessins vite fait sur Internet pour voir ce que ça donnait. Et enfin, j'ai trouvé ça super cool, quoi, comme dessin.
Bah, c'est l'histoire d'un pirate, en fait, qui est accompagné de son petit moussaillon. Voilà. Et donc, bah, c'est des histoires de pirates, mais un petit peu rigolotes. Voilà, ça fait longtemps que je les ai pas relus parce que ça date un petit peu, donc je saurais pas vous sortir comme ça le pitch du tome, mais c'est de l'aventure humour sur un pirate qui a évidemment mauvais caractère et qui fait plein de conneries, quoi. Voilà.
Ok, bah merci. On va continuer. Alors là, on arrive sur Pen, et là, Pen, tu nous as parlé dans
très,
les vieux trucs
lourd,
du lourd. Alors, on va y aller derrière. Sur 13 et Torgal. Alors, tu nous as dit, je te cite. Alors, attends, je retrouve la ligne, parce que bien sûr, je l'ai perdue. Certains des albums sont fabuleux, mais sur la durée, il y a quand même beaucoup de déchets. Alors, j'en ai mis quelques-uns sur la table, et je pense que j'ai pas choisi les pires, forcément.
Lesquels sont des déchets, lesquels...
Voilà. Alors, j'ai mis sur la table, juste pour voir, Le Maître des Montagnes. Donc, qui est un one-shot assez classique, La Cité du Dieu Perdu, oui. Moi, Jolan, qui est un des derniers, et Les Archers.
Non, mais on n'a pas relu toutes les BD dont on vous a parlé. C'est des bons souvenirs, des trucs qu'on adore.
Mais là, on va parler sur le souvenir vite fait.
Les archers, bon, ben. Très bien. C'est, je pense que c'est plus un souvenir de jeunesse, c'est-à-dire que pour les gens de ma génération, c'est des albums avec lesquels on a vécu, qui sortaient régulièrement, qu'on attendait religieusement en librairie. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les séries évoluaient, je pense que le fond scénaristique s'est dilué, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on avait des albums très denses où il se passait beaucoup de choses, à la fois une aventure, mais également des informations sur l'évolution du personnage, que ce soit sur l'une des séries ou sur l'autre. Vraiment de gros progrès. Ensuite, on est arrivé sur des albums qui sont plus tièdes, où effectivement, on a 46 planches, il y a un fond. Il y a quelques détails, certains dessins, il y a des albums où Rosinski, on a été un peu déçus aussi.
Avant qu'il repasse à la couleur directe. Voilà. Juste avant qu'il repasse à la couleur directe. Et... Ouf, c'était...
Voilà, c'était un peu plus lourd à lire. Donc, aujourd'hui, ça reste des séries que j'ai du plaisir à relire jusqu'à un certain point. C'est toujours pareil. Donc, c'est pas que je les déconseille ou que... je pense qu'il faut les avoir lus d'un point de vue... culture BD-file. Après, il y a des gens qui les mettent sur un piédestal. Je ne mettrai pas tous les albums sur le piédestal, au moins sur la plus haute marche du piédestal. Voilà.
Ouais. Tu as lu les derniers avec Yves Saint au scénario ?
Non,
pas du tout.
Pas lu. D'accord. Par contre, je suis intéressé pour avoir un retour, un feedback, si vous l'avez fait.
Alors, on n'a pas encore parlé, mais je pense qu'on va en parler bientôt. Moi, je dirais simplement que le Yves Saint, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait un nouveau scénariste qui essaye de rajouter du neuf à la série, qui essaye de partir sur quelque chose de... Disons que voilà, en gros, on a un peu le passage à l'âge adulte de Jolan dans les derniers tomes. Et je trouve ça sympa parce qu'il est reparti un peu avec le côté des légendes qu'il y avait à l'époque, avec la quête initiatique, le défi. On retrouve un peu... des histoires qu'il y avait dans les premiers tomes de Torgal, ou les tomes qui racontent son enfance, où il est avec la gardienne des clés, etc. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal trouvé. Alors c'est vrai qu'après, il y a le côté nostalgique. Moi, les archers, c'est... Après, je voulais jouer que des persos archers au jeu de rôle,
oui, je pense
pour
que
avoir
ça 50
000 flèches
tout le monde.
Dans tous les sens. Et je me souvenais d'ailleurs que de ça, du scénario, avant de le relire un peu après, pour me dire « Ah, mais ça raconte quoi, déjà ?» Et c'est vrai que moi, le premier que j'ai lu, c'était Le Maître des Montagnes. C'est pour ça que j'ai mis sur la table. C'était un one-shot que j'avais trouvé très, très bien conçu, en fait.
Mais il est très bien. J'ai pas, c'est pas que j'en veuille particulièrement à Vam, mais je pense qu'il y a eu des... je peux citer Spirou également comme série, qui a eu plusieurs scénaristes, plusieurs époques aussi, et où on a des albums qui sont exceptionnels. Et puis, où on a des albums où on se dit, oulala, c'est quand même très vite fait. Voilà.
Donc, tu parlais de 13 aussi.
Oui.
Donc, c'est toujours Van Hamme.
C'est pour ça que je dis que je ne le vois pas.
Par contre, pour moi, le problème serait différent sur 13. C'est plus le problème de la longueur, en fait.
Oui.
Tu es un peu d'accord là-dessus ?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça n'empêche pas qu'on ait des périodes qui soient très très bonnes. Il y a des albums ou des doublons d'albums qui marchent très très bien. Mais c'est vrai que sur la longueur, pareil. Au bout d'un moment.
Il aurait dû s'arrêter plus tôt, tu penses ? Enfin, c'est l'impression que j'ai eue.
Condenser certaines choses plutôt que... c'est vraiment une impression de dilution sur ces albums-là.
D'accord.
C'est vrai que c'est l'effet Lost, en fait.
Oui, voilà, c'est exact, c'est l'effet Lost.
Avant Lost.
Avant Lost. Oh, quel génie, ce Van Hamme.
Il est trop fort.
Donc nous passons maintenant à notre rubrique sur l'intégrale. En gros, on a une rubrique en général où on parle de l'intégrale d'une œuvre, une œuvre complète. Quelque chose qu'on peut lire de bout en bout en ayant un début, une fin. Et en général, plusieurs albums. Et on a choisi deux BD que Pen a sélectionné et une de Manu. On va commencer par Pen, puis on va revenir sur Manu, puis on va revenir sur Pen, comme ça se fait une alternance, ça va être plus sympa.
Quelle technique ?
Tadam ! Alors, tu nous as parlé de Blueberry.
Oui.
Alors, Blueberry, moi, j'ai dû en lire un il y a super longtemps. C'est vraiment...
Je vais y aller, je crois. Non, il y a mon téléphone qui sonne, il faut que j'y aille. Excusez-moi, on va arrêter l'émission.
Ah ouais ? À ce point-là ? Je te déçois à ce point-là ?
Non, mais en fait, je te laisse continuer, vas-y.
Ouais, bon, moi je connais plus le côté Mobius que le côté Giro. Mm-hmm. Et donc, pourquoi Blueberry est-elle une série incontournable qu'il faut avoir lu en entier ?
Alors, je sais pas par où commencer. J'ai une liste. Il dure combien le podcast ?
On a le temps, c'est l'anniversaire, hein, donc
d'accord,
vas-y.
Bon. Non, j'aime beaucoup. J'ai découvert cette série sur le tard parce que j'aime bien commencer par le début. Donc, quand je prends un album, je prends le premier.
Ah ouais, t'es comme ça, toi.
Et c'est vrai que quand on regarde un des derniers albums qui est sorti, on a un dessin très moderne de Giro qui parfois peut faire penser à du Moebius. Alors que quand on prend le tome 1, ben on a le tome 1, quoi. Donc, ça pique un peu les yeux, et par le dessin et par la couleur. Mais c'est vrai que c'est du très 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 bon scénar de western. Et on a le plaisir de découvrir l'évolution du dessin de Giro sur une trentaine d'années. Et c'est vraiment très agréable pour ça également. Donc, un scénario qui ne déçoit pas, que ce soit quand c'était Charlie au début et puis quand Giro l'a repris ensuite. Et un dessin qui est très réaliste et un peu spécial au début. Et qui derrière évolue vers quelque chose de très moderne et qui est très très fluide et puis magnifique. Moi, les derniers albums, je suis vraiment très fan.
Est-ce que ça a quelque... J'aurais presque envie de les lire, en l'entendre.
Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le film ? Parce que moi, je suis allé voir le film dans un soir de déception au cinéma. Je crois que c'était avec Vincent Cassel.
Oui,
et je suis ressorti à peu près boire du gaz. Parce que
T'avais jamais lu la BD ?
Je crois que j'en avais, ouais, pareil, j'en avais feuilleté une en étant petit, petit, et j'en avais peu de souvenirs. Donc du coup, j'ai allé voir le film, bon, disons, ça va être bien, mais est-ce que ça a un rapport ou pas ?
Bah, il y a le même titre.
mis à part le titre, est-ce qu'il y a autre chose ?
Où est Charlie ?
Il y a du scoop là.
Non, honnêtement, je l'ai vu le film au cinéma. Je l'ai vu, je pense, avec Manu et Delphine d'ailleurs, il me semble. Voilà, il y a des personnages qui sont tirés de la série, mais on retrouve ni l'ambiance, visuellement c'est aussi assez différent. Je vais répondre simplement à ta question. Pour moi, non. Voilà.
Je crois que, enfin, je sais pas si dans les albums, moi j'en ai lu aucun, il y avait les tripes chamaniques.
C'est vrai qu'il y a pas tant que ça. Dans le film.
Parce que. Donc dans le film, je sais pas si tout le monde l'a vu, il y a beaucoup d'histoires donc de trip chamanique qui étaient réalisées en images de synthèse, qui étaient sympas. Mais je me souviens que en fait, Yann Kounen, quand il a fait le film,
il était en plein trip chamanique.
En tout cas, il avait fait un documentaire. Alors je sais plus si c'est en faisant de la recherche sur les trips chamaniques ou si c'est avant, mais il a bloqué manifestement sur cet aspect-là au point qu'il en a fait un documentaire. Donc après ou avant, j'en sais rien, mais manifestement, il a été le film a, je pense, qui était peut-être prévu au début comme une adaptation d'un des albums ou un truc assez proche de la BD, a dérivé parce que lui, vraiment, personnellement, il a accroché à cet aspect-là, quoi. Donc, ça m'étonne pas qu'au final, ça n'ait pas grand-chose à voir avec la BD.
Bon, mais du coup, peut-être que je vais enfin lire Blueberry, alors, parce que en ayant vu le film, ça m'a vraiment pas du tout donné envie de commencer.
Finalement, on va relancer les ventes ce soir.
Ah oui, je pense que Giro avait besoin de nous, donc.
je pense.
Et tiens, d'ailleurs, en parlant d'adaptation, vous avez des projets transmédia, pour utiliser un mot intelligent, moderne, derrière, avec les geeks.
C'est une très bonne question. On vous remercie de l'avoir posée.
D'accord.
Oui.
La réponse est oui.
Mais nous ne pouvons pas en parler car nous avons des NDA de tous les côtés.
Non, on peut en parler un petit peu. Il y a un projet d'adaptation en série télé, voilà, qui est bien avancé. Enfin, du moins, on a déjà des pilotes qui ont été tournés. Et on n'a plus qu'à attendre qu'une chaîne réalise que
c'est génial.
Absolument qu'elle le prenne.
Ce serait du format. Court, genre Kaamelott et compagnie, voilà. Ce qui marcherait mieux avec le genre, je pense.
Oui, pour rester quand même assez proche de l'univers et des gags, finalement.
Parce que je sais que moi, la plupart des BD à gags que j'ai vu adaptés en dessin animé, je pense à Cédric, qui deviennent des histoires plus longues, perdent un peu de l'ambiance d'origine.
Mais là, c'est pas de l'animation.
C'est live, ouais.
Ah ouais.
Avec des vrais acteurs.
Ah oui, ce serait énorme.
Et avec un vrai acteur qui ressemble vraiment à Fred.
Avec les mêmes coupes de cheveux ?
Oui,
exactement.
Si vous êtes sage, on pourra vous en montrer un petit bout tout à l'heure.
Un teaser.
Ah ouais. Ensuite, c'est Manu qui nous a parlé du superbe Planétari.
Ah, alors, D'un coup, tu m'inquiètes parce que tu dis une œuvre complète qu'on peut lire jusqu'au bout.
Ah, d'accord.
On se posait la question.
Voudrais-tu dire qu'on est au bout? Parce que je ne pensais pas être au bout.
Il me semble que le dernier vient de sortir en VO.
Ah, il me semble. J'espère que ça continue, en tout cas, de ce que j'ai lu, moi. Donc, j'en ai lu 4 en... Ouais, j'en ai lu 4 en français. Et il y a, un album de spin-off. Voilà, c'est ça, croisé avec la Justice League.
Et celui avec Batman, qui est exceptionnel.
Voilà, alors effectivement, on pourra peut-être en parler après. Donc, Planetary. Donc, Planetary, c'est un groupe de héros. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un groupe de héros très original. Non, je voulais te faire signe de me passer une BD, pas de manger le micro. Merci. Ouais, c'est une BD donc, que je trouve vachement originale. Et donc, c'est Warren Ellis encore, donc on a déjà parlé. Et John Cassady au dessin. Donc, j'aime bien les comics, moi, mais par contre, j'ai découvert ça relativement tard. Et j'ai absolument jamais lu les comics, disons, d'origine du Superman. Du Batman, j'en ai lu des tonnes, mais pareil, récemment, j'ai jamais lu un X-Men. Voilà, etc. Les vieux trucs,
moi non plus.
Les vieux trucs, les classiques, je les ai pas lus. Et ça me plaît pas trop quand je les regarde, que ce soit le dessin des vieux trucs, et puis le concept général du héros, du vraiment super héros très classique, j'accroche moyennement. Bien que j'ai pas mal aimé la plupart des films, mais bon. Et donc Planetary, c'est des héros plus particuliers. Et surtout, l'histoire est racontée d'une manière très bizarre parce que, en fait, c'est des nouvelles. Dans les, alors, la manière dont ça paraît aux US, évidemment, c'est.
Oui, c'est des fascicules de 22 pages.
Voilà, c'est des fascicules, donc c'est des one-shots, en fait. Et donc, en France, c'est publié des gros tomes qui contiennent, je sais pas, peut-être 4-5 histoires à chaque fois.
Ouais, c'est entre 4 et 6, je pense. Plus voilà. 6, je pense.
Donc, on n'a pas une histoire continue. On voit des petits morceaux, en fait, des petits instants qui décrivent à chaque fois. Une situation surnaturelle avec, je sais pas moi, des aliens qui débarquent, avec un méchant super-héros, avec au contraire un gentil super-héros venu de notre univers, avec donc plein de petits morceaux comme ça. Et on suit donc le groupe Planetary, constitué de 3 personnes, plus une autre personne qu'on voit de temps en temps qui a fait partie du groupe à une époque qui n'en fait plus partie. Et on découvre donc petit à petit l'univers tel qu'il existe dans Planetary, avec la plaie qui est d'ailleurs aussi présente dans Authority, je crois.
Authority, oui. Voilà. C'est la constante de tout ce qu'a fait Warren Ellis chez Image. D'ailleurs, voilà. Authority et Planetary, c'est les séries qu'on commence en même temps. Et l'objectif, c'était de montrer 2 facettes d'un même univers. Un côté plus, on est des vrais super-héros, etc. Et Planetary, c'était plus le côté, on va aller voir le passé. Le passé de l'histoire des super-héros de cet univers-là.
Ouais, et d'ailleurs, j'aime bien Authority aussi, mais Authority, donc c'est vachement plus classique, hein, comme tu disais, c'est les super-héros, mais il y a quand même. C'est très gros bill, je trouve, par exemple.
Ouais, totalement. Hein,
rien à voir avec les super-héros donc classiques dont je parlais avant, qui s'attaquent à des trucs encore relativement humains quand même. Et alors qu'avec la plaie, on parle de destruction de planètes entières, de méchants qui détruisent des univers, etc. Donc on change d'univers via la plaie. Et je trouve qu'ils sont pas mal aussi dans Authority. En fait, c'est un côté gros bill un peu plus délirant que les classiques. Quoi.
Alors ce qui est marrant sur Authority, c'est que moi j'ai commencé à les lire Stormwatch en fait, à la base. En fait, Authority est né sur les cendres d'un autre groupe de super-héros qui s'appelait Stormwatch, qui a été complètement décimé suite à un crossover écrit par Warren Ellis avec Alien.
Waouh.
Il a tué toute l'équipe, sauf les nouveaux personnages qu'il avait introduits entre-temps, dans un crossover avec Alien. Donc c'est très geek, là, on est à fond dedans.
D'accord, je ne
savais
pas ça.
C'était assez énorme, c'est très dur à trouver maintenant, parce que ça s'est trouvé qu'en fascicule pendant un moment.
C'était le tas que tu m'avais fait une fois qui était...
Oui, le gros tas, où il fallait passer de 50 séries différentes parce que tu avais navigué d'une série à l'autre. Et le dessin de Cassaday, tu connaissais déjà Cassaday?
Alors non, je ne connaissais pas avant. Je ne sais pas si j'ai lu autre chose qu'il a fait d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre?
Il a fait Je suis Légion.
Ah, Je suis Légion, oui, j'ai lu. J'ai lu chez Pierre.
C'est chez moi, ça.
Qu'il a fait en franco-belge. Donc,
voilà, j'ai lu chez
J'aime
Pierre.
J'aime beaucoup, ouais.
Effectivement, Légion, c'est, je suis Légion, c'est pas mal. Mais non, moi, vraiment, vraiment Planétary, ça fait partie ouais, de, des coups de cœur. Planétary et Powers.
Powers, super bien.
Des coups de cœur comics de ces dernières années, des trucs que je trouve géniaux, inventifs, créatifs, et tout en restant dans les super-héros, mais en les abordant d'une manière différente.
Powers qui s'arrête en VF.
Oh, c'est pas grave, on lira en VO.
C'est-à-dire, la série continue et l'éditeur,
oui,
français arrête.
L'éditeur français arrête.
Alors, je crois que dans les questions que tu nous avais posées, il y avait des séries qui n'ont pas le succès escompté. Ouais. Je crois que j'ai mis Planétary. En fait, j'ai aucune idée du succès de Planétary.
Moi non plus.
J'en entends rarement parler. C'est pour ça que je disais Planétary. Je pense pas que ça ait eu beaucoup de succès. Alors, Powers, je pensais que ça avait du succès. Ce serait une grosse déception aussi si ça s'arrêtait, parce que c'est vraiment une tuerie.
Je trouve aussi. Et Planétary, donc, apparemment, vient de s'arrêter aux États-Unis, à ce que j'ai pu comprendre.
D'accord. Bah, j'espère qu'on aura le dernier tome, en tout cas, s'il y en a un dernier. Qu'on a
il y avait un rythme de parution très très lent, parce que Cassaday apparemment n'est pas très rapide. Disons qu'il a réussi, en même temps qu'il faisait sa série Planétary, à faire un album franco-belge, même plusieurs, je crois, parce que Légion, il y en a trois. Ouais, donc forcément, le rythme de Planétary, parce que ouais, Annelies voulait continuer avec le même dessinateur, la même équipe, donc c'est un peu rare.
Bon, c'est comme les geeks, ça s'est arrêté aux États-Unis avant même d'avoir commencé, donc c'est pas grave.
Ah ouais. Il y a eu des projets de traduction.
Ouais, il y avait un projet, ouais.
On a appris il y a 15 jours que c'était mort, donc
c'est tombé à l'eau.
Ouais, alors ouais, on est très très déçus là-dessus, parce qu'on
va brûler tout nos
Marvel.
On en
avait parlé d'ailleurs, on était super content évidemment d'avoir un plan pour être édité par Marvel aux US.
On avait même fait d'ailleurs des gags spéciaux pour eux, parce qu'en fait Soleil a un joint venture avec Marvel, donc il y a pas mal d'albums Soleil qui sortent chez Marvel. Et il nous avait demandé, dans le cadre de ce projet-là, de faire des gags spéciaux un petit peu sur les super-héros, donc que vous pourrez voir notamment dans le tome 6, et il y en aura encore dans le tome 7, et qu'on s'est bien amusé à faire, mais qui finalement ne seront même pas utilisés là-bas.
Tiens, d'ailleurs, il y a plein de références à beaucoup de choses dans les geeks. Il n'y a pas des problèmes de droit, de...
De quoi ?
Non.
Non.
Aucune idée. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question souvent.
C'est l'éditeur, j'imagine qu'il va
s'occuper
de ça.
On ne s'est pas posé longtemps. Hein.
On fait des trucs parodiques, on fait des trucs avec... effectivement, on réutilise des fois les images, des fois on les détourne. Et on se pose la question et on se dit... c'est l'éditeur qui va gérer...
Non, mais si vous vous sentez floué, faites un procès à notre éditeur, ça fera de la pub pour la...
Non, mais en plus, je crois qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas très très longtemps qui, justement, autorise d'utiliser le nom des marques...
Même dans les albums, parce que je pensais que c'était vrai à la télé, ouais. Mais je savais pas pour les...
Je sais pas si...
Ouais, bon. Ça s'applique à la BD. Ouais.
Mais je pense que dans les albums, c'était plus une sorte de pudeur qu'une vraie règle, histoire de... Bon.
D'un côté, si on peut pas dire Mac ou Windows... Oui. Ou...
Dans un album geek, c'est même si pas la peine de le faire.
Mais on leur fait une super pub, c'est ça en fait, c'est tout.
Ah ouais, j'imagine. J'imagine.
Ils ont besoin de nous, eux aussi.
Mm. Ils le savent pas encore, mais... Quand ils le sont.
En fait, j'ai l'impression que quand vous parlez de système d'exploitation ou de que ce soit Apple, Microsoft, etc., c'est rarement pour en dire du bien. Alors, ce qui est bien, c'est pour aucun d'entre eux. Hein, donc, il y a une certaine
équité. Mais tu rigoles ou quoi ? Moi, je suis fan d'Apple. Hein,
et c'est toujours plus drôle de taper sur quelque chose que d'en dire du bien, de toute façon.
Oui. On a égratigné Linux également. Je crois que
oui,
c'est dans le tome 3 ou dans le 2.
Dans le 2, ouais, je l'ai lu. Moi qui suis utilisateur Linux, j'ai fait. Oh, comme c'est pas gentil, ils sont trop méchants.
En plus, notre dessinateur a essayé de parodier deux personnes, les deux personnes qu'on voit, les deux témoins de Jéhovah,
oui.
Il y a Richard Stallman et Linus Torvalds, donc qui sont à la porte. Voilà.
Voilà,
donc, pour ceux qui ne les ont pas reconnus.
Bah moi ça.
Ah ouais. Ah bah ça alors.
Ah, disons que c'est vrai que le Stallman en évangéliste, ça colle bien.
Oui.
Linus Torvalds un peu
moins. Moins.
Mais bon, là on ne va pas rentrer non plus dans ces discussions qui peuvent durer des heures. On attaque le gros, le lourd. L'énorme.
Voilà, on peut revenir sur Mélanie pour qu'elle nous dise peut-être une intégrale qui t'a marqué.
Bah, c'est une intégrale courte, hein, mais moi ce serait La Quête de l'Oiseau du Temps. Bon, il n'y a que trois albums.
Ah.
Voilà, mais ça, c'est un des bouquins.
Non, une suite.
Oui, c'est vrai, il y a la suite. Mais je ne parlais pas de la suite en fait.
D'accord.
Non, voilà, ça c'est un des bouquins qui m'a marqué, mais après, je ne sais pas, l'intégrale des Gastons, il faut avoir ça absolument. Voilà.
J'ai honte, je ne l'ai pas.
Ça ne nous rajeunit pas quand même, Mélanie.
Ça ne nous rajeunit pas, mais tant pis.
Mais c'est vrai.
Oui, mais c'est...
Mais c'est tellement bon que...
Mais d'abord, je vais finir l'intégrale des geeks.
Mais c'est pas encore une intégrale, on n'est pas mort.
D'ailleurs, ce serait une bonne idée promotionnelle, il faudrait... Non.
Ou pas.
V pour Vendetta.
trop bien.
L'énormité d'Alan Moore et David Lloyd. Alors, il a été cité à deux reprises dans les questions.
Et moi, je n'ai pas répondu, mais je l'aurais cité aussi,
ouais. D'une manière ou d'une autre.
Donc, Delphine, c'était pour nous donner une BD d'un des scénaristes préférés. Donc, Alan Moore, j'en déduis, hein, facile. Et oui, c'était Penn pour la BD que tu as le plus offert, et j'ai beaucoup aimé ton argument. V pour Vendetta est la BD que tu offres le plus, parce que les gens n'osent pas l'acheter parce qu'ils n'aiment pas les dessins.
Oui,
c'est exact.
Et surtout
c'est
les couleurs.
C'est quoi, c'est les, quand, je ne vais pas dire c'est les parce que j'aime beaucoup les dessins, mais.
C'est la couleur, je pense.
La couleur, elle est très 80s, quoi.
C'est génial, hein, ça, c'est clair.
Ça ouais. pique, elle ça est plus qu'elle utilise. Hein. Moi, je l'ai jamais lu. On me l'a recommandé 156 fois et.
Manu, ton cadeau de Noël.
Je l'ai jamais lu parce que effectivement, je l'ai ouvert un millier de fois et je lis la BD entre autres pour les dessins, quoi, vraiment.
Watchmen passe quand même un peu mieux au niveau graphique.
Et mais Watchmen, c'est pareil.
Oui,
c'est
mais il y a cet effet là aussi quand on l'ouvre quand même.
C'est vintage.
Oui. C'est vintage, voilà. C'est pour ça que j'aime.
Donc bon, V pour Vendetta, on va pas parler. Enfin, tout le monde doit connaître un petit peu maintenant, surtout grâce au film, en fait.
Sinon, vous pouvez arrêter ce podcast et ouais. dire autre chose.
Et vous revenez après.
Vous avez vu le film, vous avez aimé?
Oui et oui.
Oui et oui.
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 Et ah oui, bah, beaucoup.
Justement, du fait de pas l'avoir lu, ni ça, ni Watchmen, je pense que j'ai pu apprécier les films vachement. Alors, je sais pas quel rapport on peut avoir quand on les a lus, justement, ce qu'il y a de différent, ce qu'il y a de mieux ou de moins bien dans la BD. Mais et c'est pareil pour ce que je disais avant, les comics, les X-Men, Spider-Man, etc. Moi, je les découvre entièrement via les films. J'ai pas d'a priori et ça passe super bien. C'est un côté très agréable et j'ai beaucoup aimé les deux films Watchmen et V pour Vendetta.
Bah pour avoir lu les deux et vu les deux, moi, j'ai pas été déçu par les films. Peut-être Watchmen plus que V pour Vendetta, mais.
Oui, pareil.
Watchmen était un peu
plus Watchmen,
un peu plus difficile par rapport ouais. à. Dans l'adaptation, il y a eu des choix qui ont été faits qui étaient un peu douteux, peut-être.
Oui, plus borderline.
Tu as aussi cité, toi, en scénario, pour le scénariste préféré, tu as replacé du Alan Moore, la oui. Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Oui.
Au niveau des BD d'Alan Moore, apparemment, vous en avez tous lu, sauf Manu.
Si, quand même. Alan Moore, j'ai à peu près tout lu, ouais.
Voilà. Mais pas avec pour vendre. Non, alors,
c'est le dessin, sauf... c'est ce que je disais, c'est rapport au dessin.
Il lit que les bulles en fait. J'ai pas vu.
Non, mais c'est rapport au dessin, donc c'est vrai que les vieux trucs, il y a plein de vieux trucs que j'ai pas lus. Et il faut, moi, une BD, il faut que ce soit enfin, beau au moins un minimum. Quoi. Si je prends pas plaisir au dessin, je lis pas.
Et les ligues, t'as accroché au dessin aussi?
J'ai accroché au dessin.
Pourtant, c'est super particulier
ouais.
aussi.
Ouais, ouais.
Oui, mais c'est,
ouais, mais c'est plus séduisant. Oui.
C'est la couleur, je pense, plus que le dessin. Quoi, on associe souvent les deux, mais c'est vrai que on regarderait les albums en noir et blanc. Je pense que ça serait quoi, V pour Vendetta serait beaucoup plus divers.
Je pense aussi. Ouais. Je pense aussi.
Et par contre, un truc, bah, Prométhée. Je ne sais pas si vous avez lu Prométhée.
Oui, mais là,
là pour
c'est
le
beau,
coup, au niveau
rare,
dessin,
c'est
du délire. Et ça, j'ai adoré quoi. Alors, il y en a qui sont relativement durs à lire, qui sont vraiment, c'est des tripes. Et
ça
parfois
part en live.
Énormément de textes.
Il faut les trouver maintenant.
Mais
plus.
C'est d'une créativité au
scénar.
Niveau dessin et scénar, c'est incroyable.
Ah, c'est si, en mode de narration, c'est vrai. Que...
L'intégrale qu'il faut avoir absolument chez soi, c'est Akira.
Voilà. Akira, oui.
Celui-là, je l'ai, ça va.
Ouais, Akira,
c'est top ultime.
Top ultime.
Ah oui.
C'est quoi? C'est le scénario, le dessin, la totale, l'arrivée
c'est
du manga
tout,
en France?
C'est le scénario, le dessin. En plus, moi, je les avais lus, ils étaient en noir et blanc encore à l'époque. Maintenant, il y a la version.
Ah oui, c'était vraiment la première version qui passait en kiosque, il me semble. C'était un truc comme ça.
Ouais, enfin, là, j'avais acheté.
Ouais, en
ouais
soupe,
c'était des soupes, ouais, exact.
En soupe en kiosque.
Et ça m'a, mais voilà. J'ai rien à voir avec le film non plus, hélas. Enfin, j'ai bien aimé le film aussi, mais,
oui,
mais ça n'a encore rien à voir, quoi.
Ça n'a aucun rapport avec
non.
le manga d'Az?
Non.
Enfin,
si, le pitch, mais.
Parce que moi, j'ai vu que le film, hein, donc.
Mais c'est absolument génial et c'est. Moi, ça m'a transporté. Et... Mmh. Ouais, ça, c'est un des trucs qui.
Est-ce que c'est pas aussi lié au fait que c'était un peu la première fois qu'on voyait ça arriver en France? Je veux dire, Akira, c'était un peu le début du manga en France. Il y avait peu de choses, peu de BD japonaises à l'époque qui arrivaient chez nous.
Ouais, non, je sais pas. C'est aussi le sujet qui me parlait parce que moi, les histoires post-apocalyptiques, ça me, je sais pas, j'ai un truc avec ça et voilà, j'ai accroché vraiment. surtout quoi, voilà, sur le dessin, sur le.
Et t'as aimé la colorisation qui s'est faite après ?
Je suis pas à fond, ouais, mais bon.
Parce que ça, pareil, c'était le début de la couleur numérique aussi. C'était Steve Olive. C'était le tout début des couleurs numériques. Ouais. Avant, les studios images, on avait mis des tonnes de partout.
Mais enfin, ça n'a pas trop vieilli en même temps. Ils ont moins réussi ça, mais bon, j'aime autant en noir et blanc, quoi.
Là,
c'est comme si on voulait faire du Frank Miller en couleur, quoi. C'est... marcherait moins
un
bien.
Un peu de couleur, Frank Miller, mais juste ce qu'il faut.
Ouais.
Mais ouais, non, je disais à Mathieu qu'il fallait qu'on fasse un intégral dans une émission sur Akira. Il va falloir qu'il y ait des 14, enfin les 13.
C'est vrai qu'on n'a pas dû parler beaucoup de manga. Je sais pas si on a. Je sais pas si vous avez cité des trucs. Moi, j'ai peut-être cité Nausicaa, je crois.
Oui, oui, tu as cité Nausicaa et Ghost in the Shell.
Ah oui, Ghost in the Shell aussi, effectivement. Bah, c'est vrai que Ghost in the Shell, on connaît beaucoup plus le film que.
Et on pourrait dire Galligum aussi.
Que la BD, enfin, la BD est excellente. Et,
Battle Angel Alita.
On va passer au BD oublié.
Ah, BD oublié, alors c'est super nouveau comme rubrique, mais.
Mais c'est parce qu'en fait, on les connaissait.
Vous avez
pas
un jingle pour
ouais, en fait, on a un seul jingle qui est toujours le même qui passe entre chaque chronique. J'aimerais bien avoir un truc
c'est un
plus.
Peu triste,
plus ouais, c'est un peu triste, mais bon, c'est
si
histoire.
Si vous
de...
en fait, on avait fait une chanson pour les geeks.
Non.
À la fin, le jingle, c'était.
Achète les geeks.
Il y en a que Mélanie qui a suivi.
C'est pas mal. Tiens, d'ailleurs, en parlant des trucs improbables, j'ai beaucoup aimé le nom de l'entreprise. Je pense que ça a dû marquer beaucoup de monde.
C'était un choix évident.
Ce qui était assez fabuleux, c'est que j'ai un copain belge qui a lu la BD et puis il me dit « Mais tu sais ce que ça veut dire, DTC ?»
D'accord.
On sait jamais.
C'est vrai, je pensais que c'était qu'en Belgique, en fait.
Voilà. Non, parce qu'en plus, le logo de la boîte a été pensé pour aussi.
Voilà. Voilà. Et il pensait que voilà, on était passé à côté.
Donc, c'est la BD oubliée. C'est Delphine qui nous a trouvé un truc qui s'appelle alors « Tuff et Koala ».
Voilà, alors donc non.
Ah non, ça s'appelle pas comme ça.
Vous êtes déjà passé à côté de ce qui résume toute cette série. Ça s'appelle en fait Tu fais quoi là ?
Ah !
Comme dans Tu fais quoi là ?
Oh ! Effectivement, on a raté le jeu de mots énorme. D'accord.
Voilà, c'est une BD jeunesse de Cœur Dridel et Philippe Fenech. Et bah, en fait, j'ai cité parmi les BD oubliés parce que bah, c'est notamment une BD qui va plus être éditée. Donc. C'est bien dommage, c'est super sympa pour les gamins, c'est l'histoire d'un gamin et de son koala qui sont transportés, de son koala en peluche, qui sont transportés dans des univers imaginés, fantaisistes, et dans lesquels il leur arrive des aventures, donc assez classique, mais voilà, tout mimi, avec un bon humour, et voilà, ça méritait d'être cité pour ça.
Comment ça se passe ? Enfin, la série n'a pas marché, en fait ? Il n'y a pas eu de promo ? Il n'y a pas eu de... Vous savez pas...
Alors là, oui, non, je ne saurais pas dire. C'est un choix de l'éditeur, au bout d'un moment, d'arrêter. Après, même si, évidemment, sur les festivals ou autres, bah, elle est toujours parfois demandée aux dessinateurs. Et il y en a des fois qui râlent de ne plus la trouver. Mais bon, voilà, ça arrive. Et ça n'empêche pas qu'un autre éditeur la reprenne après, puisse la continuer ou racheter les droits pour continuer à l'éditer. Donc j'espère que ça arrivera.
Et pour les autres, il y a des BD introuvables que vous avez dans votre bibliothèque, que vous gardez précieusement, parce que vous savez que ça ne sera jamais réédité.
Juste, moi, je pensais, il n'y a pas longtemps, je pensais à Cromwell, une série qui s'appelait Anita Bomba.
Oui,
voilà. C'est édité, ça, non ?
Et je ne suis pas sûre, je crois pas.
Ah ouais ?
Parce que justement, je l'ai conseillé à plein de copains et ils ne la trouvent plus. Donc,
pourtant, c'était
bien. Ce serait dommage.
C'était super,
c'était Cromwell, excellent.
Anita Bomba. Tu ne les as pas lues ?
Je sais même pas ce que c'est.
Tu as raté quelque chose. Bravo.
Et oui.
Voilà, moi c'est,
je te prêterai mes exemplaires dédicacés.
Trop non. Bien.
Moi, je cherche le tome 3 de Liberty chez Zenda, parce que j'ai le 1, le 2 et le 4.
Envoyez vos dons.
Chez Zenda, ouais, d'accord, c'est voilà. Pas évident. Oui. Moi, c'est pire que ça. Je cherche certains tomes de Rourke qui ne sont plus...
Ah, alors je les ai tous, les Rourke.
Voilà, il m'en manque quelques-uns.
Tu
mon
peux
frère
les
a tous. Mon frère... La photocopie tue le livre.
Mais quand c'est plus édité, t'as pas trop le choix.
Ils vont les rééditer apparemment. J'en ai discuté avec un gars du Lombard. Ils vont les rééditer.
Passe-moi ta bière qui me
bientôt. Dit. Ah bravo. Oh.
Sinon, dans les grands oubliés aussi, je parlais d'Éric Cartier tout à l'heure. Il y a Le Pigeon Maltais. Je sais pas si vous
fabuleux,
l'avez
ouais.
Lu, mais c'est,
ça me,
c'est
ça
un
me
de mes
rien.
Bouquins cultes et ça, c'est introuvable, absolument.
D'accord.
Et moi, j'en ai un dédicacé. Ouais.
Moi aussi d'abord.
Battez-vous. Qui a la plus belle dédicace ?
On a plus Chignon. Je crois que j'en connais un qui a une planche. Bon, pas
j'ai
bon.
Une voilà. Planche.
Eh ben, on passe à la rubrique online. Alors, régulièrement, il y a de plus en plus de BD sur Internet. On en trouve de plus en plus. Votre
c'est
BD
scandaleux.
Parle un peu d'Internet, c'est scandaleux. Hein. On peut de plus en plus acheter de la BD sur Internet, c'est en train d'arriver. J'ai l'impression que les éditeurs de bande dessinée sont un peu plus réactifs que les éditeurs classiques du livre. On en reparlera un petit peu après. Vous m'avez...
Marvel et DC, d'ailleurs, qui ouais. passe une bonne partie maintenant sur...
Sur
il y a les très iPads. Très bonnes apps sur iPad, notamment. Voilà.
Mais je n'ai pas d'iPad.
Moi non plus, je suis... Contre Apple, c'est méchant. Non, mais par contre, c'est vrai que l'iPad a un super format pour lire le comics.
Oui.
Et je me souviens qu'ils ont montré dans Geek Inc. Ils ont fait un super review de l'app Marvel et c'est vrai que ça faisait baver, quoi. Avec beaucoup de tomes, je sais pas si beaucoup de tomes 1 gratuits, je crois. Tous les tomes 1 gratuits.
Oui, la plupart des tomes 1 gratuits, puis des vieux trucs aussi. C'était assez intéressant. Donc là, au niveau BD, il y a Manu qui nous a parlé donc de XKCD.
Ah, XKCD.
Alors, XKCD, ouais. C'est, je pense, une des BD online les plus geeks qui existent et qui, justement, va souvent dans le travers que vous essayez d'éviter. Mais des fois, on comprend rien.
On comprend vraiment rien assez souvent. Je sais pas ce que fait le mec dans la vie, j'aimerais savoir. Je sais pas si c'est marqué quelque part dans son blog, peut-être, ou quoi, mais il y a des trucs, effectivement, des fois, totalement... très techniques sur certains trucs. Des fois, c'est au contraire romantique ou onirique. Enfin, il y a de tout dans cette BD. Et c'est des... Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des tout petits strips, en général, parce que des fois, il y a des planches. C'est dessiné à l'arrache, au crayon, sur un bout
avec
de papier.
Des bonhommes bâtons. Et pourtant, ils sont super
dynamiques,
des
bonhommes bâtons.
Ils ont une pêche, je trouve.
Mais qui sont effectivement vivants, quoi. Et parfois, des réflexions toutes bêtes. Je ne sais pas. C'est vraiment un truc hyper particulier. C'est vraiment un webcomic très particulier. Mais que j'aime beaucoup. Quoi.
Moi, je sais que c'en est un que je suis. Je ne comprends pas tous les gags, surtout les plus techniques. Mais c'est vrai que l'un des derniers qui m'a fait rire, c'était le coefficient de productivité en fonction du niveau de la capacité de rotation de la chaise. Enfin, plein de...
C'est un concept intéressant.
Voilà. Donc, il dessinait sa courbe, hein, parce que c'est toujours souvent très mathématique.
Ouais,
très,
il y a beaucoup de maths.
Très schématisé.
Mais en fait, c'est Mog qui fait ça pendant qu'il est avec nous. C'est pour ça.
Ah, il dessine si bien que ça en bonhomme bâton.
Ah bah, je sais pas, faudra qu'on le teste.
Parce que le bonhomme bâton, c'est dur et je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal pour le genre. Et Delphine, tu nous as parlé du Blogustin de Augustin. Ouais. Qu'on trouve aussi sur son blog, justement.
Bah ouais.
Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Enfin, je connaissais pas du tout, j'ai découvert parce que t'en avais parlé. C'est,
c'est à découvrir. Je pense que ça a effectivement pas eu le succès que ça devrait avoir, mais parce que c'est pareil, c'est un petit peu un ovni. C'est, peut-être il faut connaître Augustin pour le lire, mais je crois pas. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Et c'est juste ce gars-là qui est un dessinateur, scénariste de BD, qui fait Heroic Pizza chez Soleil et qui passe dans L'Enfest Mag, qui bosse pas mal pour L'Enfest Mag, et qui raconte sa vie, ses réflexions sur le monde, sur ce qu'on va devenir. C'est toujours très, toujours assez noir, assez... assez osé, voilà. Et c'est
assez cynique, même, on
assez
peut dire.
Cynique, ouais. Et c'est vrai que je pense que ça ajoute un plus quand on connaît le personnage, mais sinon on peut le découvrir à travers ces pages-là. C'est pas vraiment du gag, c'est un petit peu à l'image de des rubriques Cabrac à l'époque, enfin en tout cas sur la forme, c'est-à-dire que c'est le narrateur Augustin qui parle librement, alors de temps en temps il se retrouve dans les situations qu'il décrit, de temps en temps il est juste sur fond blanc en train de papoter, et voilà, c'est rigolo. Et,
et ça passe dans
ça passe dans L'Enfest Mag, il y a eu deux albums, je crois, qui sont sortis.
Ouais. Ça m'avait l'air vachement quand même un peu trash, hein, pour,
c'est un peu trash,
mag, pour du L'Enfest Mag, je trouve.
Souvent L'Enfest Mag est pas une planche dans L'Enfest Mag.
Mais L'Enfest Mag est en train de changer, enfin pas forcément de changer de cible, mais veut pas non plus cantonner à faire que du jeunesse, donc c'est il y a des séries qui il y a des séries
plutôt ado L'Enfest, puis moi je vois que Soleil a aussi pas mal évolué sur voilà. Sur le type de BD qu'il propose ces dernières années.
Et du coup L'Enfest Mag a évolué aussi, hein, même il y a des BD pas que pas que les Blogustins, pas que dans les gags en tout cas, mais il y a des séries Soleil qui passent, qui sont publiées dans L'Enfest Mag, qui l'auraient peut-être pas été, c'est vrai, il y a quelques années, mais là-dessus la politique a un peu changé, donc ça permet d'avoir
L'Enfest
un petit peu
Mag
plus de diversité.
A perdu un lecteur d'ailleurs à cause d'Augustin, puisque Je me souviens d'un gag qui est passé dans le mag où c'était sur les films porno ou je sais pas quoi. Et il y avait, on avait eu un lecteur qui nous avait écrit comme quoi il était scandalisé. C'était vraiment...
Ça va, en fait, c'est pas le journal de Tatin.
En général, ça fait plutôt rire tout le monde, oui, ce genre de réponse, mais bon.
Enfin, je suppose qu'un parent qui achète le L'Enfance Mag pour son gamin de 10-12 ans peut être choqué facilement.
Mais il n'a qu'à pas lire L'Enfance Mag de son gamin.
Voilà, c'est celui de son gamin.
Ou alors avoir de l'humour.
Voilà.
Vous lisez beaucoup la presse BD de prépublication, bon, il n'y a plus grand-chose. Hein.
Non, prépublication...
Du tout. Moi, j'accroche pas du tout à la prépublication. C'est un truc que je peux...
Moi, casse-mâche, parce qu'on reçoit, mais...
Comme essayer de télé, regarder un épisode comme ça de temps en temps, c'est juste pas possible.
Ouais. En fait, j'ai un gros regret au niveau de la presse BD, c'est Eclipse et Calliope.
Qui ont...
Attention, séquence
Eclipse,
émotion.
Qui était absolument magnifique, avec des dossiers énormes, des sujets passionnants, même sur des trucs... Moi, je me souviens, c'est peut-être les magazines que j'ai les plus lus, c'est-à-dire de la première à la dernière page, en lisant des trucs qui, a priori, ne m'intéressaient absolument pas, mais qui étaient racontés avec tellement de passion et de précision. C'était tellement bien écrit, bien fait, bien présenté, c'était magnifique. Bref, voilà, déçu. Et après, il y a eu Calliope, qui était, je ne sais pas si c'était la même équipe, en tout cas, c'était le même genre.
C'était la même équipe.
Et disparu à nouveau. Voilà.
Oui, j'en avais été aussi désolé, les deux, j'ai adoré.
La vie est rude pour la presse.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de presse de plus en plus. Hein, d'ailleurs, c'est surprenant avec tout ce qu'on dit sur les difficultés de la presse sur la BD. En prépublication, c'est vrai qu'en dehors du Spirou, du Lanfeust, il n'y a plus grand-chose.
Cho.
Cho, oui, Cho. Cho aussi, très bien. Quoi. Bon, moi, j'avoue, le seul que j'achète maintenant en magazine BD, c'est le Comic Box. Je ne sais pas si vous le suivez.
Oui, moi je le reçois parce que je connais les gens qui y bossent, ils sont très sympas.
Oh, et puis c'est surtout des
lisez-le.
C'est surtout des comment des puits de science qui sont impressionnants, c'est ils sont capables de nous dire oui, mais dans tel épisode de Wolverine, il se gratte le nez avec sa deuxième griffe droite.
Ah, c'est des vrais geeks.
Ah oui, non, mais ils sont impressionnants. et on apprend toujours plein de choses, enfin, très bon magazine. Et sur tout ce qui est diffusion numérique, il y a un gros débat qui se fait là-dessus. Il y a pas mal de... Il y a eu un gros débat sur la BD en général. Il y a Fabien Vellman, d'ailleurs, un scénariste qui en parle, entre autres, hein, sur son blog, qui fait des sujets assez intéressants sur... Bah, on ne se rend pas forcément compte comment vivent les auteurs de BD. Alors vous n'êtes pas que auteur de BD, donc vous allez
bien pouvoir... Moi, je suis que autrice.
Que autrice. Auteuse.
Moi aussi, j'essaye. Autriceuse.
Et c'est vrai que ça n'a pas l'air évident. Quoi. On a une idée, j'ai l'impression, de ce métier en tant que lecteur différente. Vous croyez que le numérique va vraiment apporter quelque chose de neuf? Ou est-ce que... Enfin, le piratage BD n'est pas encore très développé pour ce qui est autre que du manga?
Si, si.
Ah ouais?
On peut facilement trouver... tous les geeks, tout Torgal, tout Blueberry.
Mais est-ce que les gens le... Ça se trouve, mais est-ce que... Alors, les gens le téléchargent beaucoup?
Est-ce que les gens le téléchargent suffisamment, a priori, pour que ça se diffuse, puisque c'est des réseaux peer-to-peer et que c'est avec un mec qui l'avait...
Personne ne l'aurait,
voilà. Donc, oui, suffisamment. Après, la question, c'est plus de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'offre légale est mieux, moins bien que ce qu'on peut trouver ailleurs? Je pense qu'on est moins bien que la musique, mais mieux que le cinéma, voilà, à peu près, pour... est-ce qu'il faut être glorieux?
Mieux que le livre, en tout cas.
Oui, mieux que le livre.
Et le livre, c'est étonnant parce qu'il n'y a quand même pas grand chose à faire, a priori.
Moi, je suis halluciné de voir. Bon, en gros, on a donné un Kindle à ma femme. En fait, on peut rien faire avec. La première fois que j'ai cherché acheter livre Verber, je suis tombé sur un site de peer-to-peer. Pourtant, j'ai tapé acheter dans mes mots-clés.
À l'inverse, on était aux États-Unis il n'y a pas longtemps à Boston et moi j'ai été étonnée de voir justement le nombre de gens qui ont ce type d'appareil-là, c'est le Kindle ou d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui l'ont, qui le lisent dans le métro, qui l'utilisent un peu partout. Et en France, bon,
ça
pas du pas tout pour
France,
l'instant.
Ouais, ça arrive pas trop. C'est vrai que comme tu le dis, c'est le manque de bouquins qui tue le truc. Quoi.
Puis c'est aussi trouver le bon prix. Par exemple, on peut trouver les Verber en numérique, j'avais regardé, mais en gros, un truc qui existe en poche maintenant, on le trouve à 16 euros.
Oui, le problème principal, c'est que quand on regarde même sur des œuvres US, le tarif entre le tarif du bouquin neuf et le tarif Kindle, il y a 15% d'écart. Et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est se foutre de la gueule du consommateur, mais pas loin quand même.
Bah, c'est le problème général de toute façon de la distribution digitale dans tous les domaines. Parce que franchement, tu regardes en musique, en VOD, c'est pareil. Moi, j'ai téléchargé des millions de MP3. Et je me suis arrêté le jour où Spotify est sorti. Hein. Franchement, oui, oui. Et je paye Spotify. Et voilà. Et j'achète des DVD en zik. Et le CD, je veux dire, je n'achèterai plus. Je m'en sers pas, donc je n'achèterai plus. Et ça les prix, quand les prix sont corrects, j'achète des MP3 de temps en temps sur Amazon. Il y a des albums à 3€. Après, quand on les a sur iTunes à 10€, je suis désolé, c'est pas possible, quoi. Vendre 10€ un truc. Et la VOD, c'est pareil, quoi. Les épisodes de série, ils sont pour l'instant à des prix beaucoup trop chers. Le jour où ils nous sortent la même chose que Spotify en VOD, ben, ce sera un carton.
En gros, vous attendez une licence globale, en gros. Hein. C'est tout à fait le principe.
Quelle idée intéressante.
Ouais, en gros, c'est l'idée, quoi. C'est trouver quelque chose, mais qui est assez distributeur. Enfin, ça doit pas être évident. Mais j'ai l'impression qu'il y a une offre de produits, pour la BD en tout cas, de diffusion de la BD en ligne sur différents supports.
Honnêtement, c'est trop cher, quand même.
Mais ça reste encore trop cher.
Regarde le prix de l'album ou le ratio entre le prix de l'album numérique et le prix de l'album physique est pas très intéressant. En plus, après, il y a des gens qui jouent à peu près le jeu avec Omics. On peut acheter un album, il est disponible multiformat, donc sur le PC, sur l'iPad, sur le téléphone Android. Alors qu'il y a par contre des personnes qui proposent l'album sous un format pour tel appareil ou sous un autre format.
Dans tous les sens.
Voilà, donc il y a des choses qui sont pas trop mal. Après, payer 5€ ou 7€ pour un album numérique en BD, ça fait un peu cher aussi.
Bah oui, c'est dommage.
C'est pas la même qualité de lecture, on n'a pas le bouquin entre les mains.
Surtout quand on a dû acheter un appareil qui en coûte au moins 150 pour le lire.
Oui, mais après, le problème aussi que ça pose, c'est à l'inverse, c'est pour les auteurs, la rémunération par rapport au travail, le tollé vient de là aussi. C'est que les éditeurs essayent de faire baisser les prix et de payer les auteurs le moins possible. Et qu'on en revient, je pense, comme à la musique, c'est que niveau consommateur, c'est abusé de payer, je sais pas, 5-6€ pour un album. Et puis après, derrière, il faut que l'auteur vive, quoi. Enfin, je parle pas de ceux qui ont un vrai travail, mais.
C'est quoi, c'est avec Comics qui propose des cartes d'albums des geeks, il me semble.
Alors en fait, c'est une volonté de l'éditeur au départ. Ouais. C'est-à-dire que quand on a commencé au format numérique, c'était sur iTunes, donc l'App Store. Et pour faire découvrir en fait les BD au format numérique, ils découpaient les BD en 4. Alors le premier, c'est même été Les Blondes qui a été découpé en 6, donc 36 pages découpées en 6. Ça fait quand même 6 planches par app, et il en faut 6 pour avoir l'album entier. Et en plus, c'était un 49 ou un truc dans le style, donc le prix est vraiment très proche du prix de l'album physique. Donc, Avec Comic fait ça, et l'autre, je crois que c'est. Comment est-ce qu'ils appellent les autres ?
DigiBD, non ?
Non, pas DigiBD.
Non, DigiBD, ils font des BD qui sont visibles plutôt sur PC, d'accord. En fait, sur ordi. C'est des versions flash des albums, mais c'est pas des apps. Je crois pas qu'ils aient une app.
Alors, je vais le trouver parce que j'ai des références sur.
Non, m'échappe.
Attention, deux téléphones Android ont été sortis.
Ah, mais on peut pas se connecter. On va le retrouver.
Bon.
Mais donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que il y a une partie des sous, donc des 4€ ou des 2€, qui vont aux vendeurs, donc Apple quand l'application est vendue. Ensuite, il y a une partie des sous qui va aux gens qui ont développé l'appli, donc avec Comics. Puis une partie des sous qui va à l'éditeur, puis une partie des sous qui va à l'auteur. Donc, comme le dit Mélanie, il reste pas grand-chose. Après, il faut peut-être revoir, en fait.
Il y a quand même une grosse économie sur la production, parce qu'enfin, même s'il y a tous les coûts serveurs auxquels on pense pas
la
forcément.
La distribution, surtout, est nettement plus simple que d'avoir des camions qui apportent des cartons chez les libraires et
faut
stocker les
livres. C'est ce qui oppose justement les auteurs et les éditeurs actuellement.
Oui, le stockage. Mais ça permettrait, par exemple.
La répartition de la vente. Pour eux, pas...
Vous croyez que ce serait possible d'avoir pour justement ce que, on parlait des BD qui sont en train de disparaître, genre tu fais Koala, etc. J'ai fait un effort, j'y réfléchis quand même un peu. De pouvoir proposer ces BD qu'on ne peut plus trouver nulle part ailleurs sur des formats numériques.
Ça serait une bonne idée.
Pourquoi pas à partir du moment où les auteurs récupèrent leurs droits, rien ne les empêche de faire ce genre de choses.
C'était Mobilier, l'autre éditeur.
Mobilier.
Voilà. Je ne sais pas.
Comme ça, on a cité tout le monde, on se fâche avec personne.
Par contre, au niveau de la distribution digitale, j'avais vu un truc qui était relativement intéressant. Il me semble que c'était DigiBD ils avaient un album, alors je crois que celui que j'avais lu c'était Kara, un album de Kara, je sais plus si c'était le Miroir des Alice ou un autre. J'aime bien Kara d'ailleurs, Miroir des Alice, Gabriel est un one shot excellent. Et donc ils proposaient eux des cases qui s'allumaient en surbrillance et sur laquelle il y avait une petite touche play, et on avait un commentaire audio de Kara.
Ah, c'est pas mal comme idée.
Et ça, c'était pas mal du tout. Il y avait peut-être 2-3 cases par planche. Et il y avait des fois des trucs très intéressants.
Jouer sur la valeur ajoutée, sur voilà, le bonus, quoi, comme donc là, ce qui a fait marcher le DVD. Quoi.
Exactement. Et là, on achète la BD au prix au même prix que les autres en numérique. Donc, il y a, je sais quoi, je crois que c'est à peu près moitié prix quand même sur ouais. DigiVD, je sais pas exactement. Et donc, il y a un commentaire pourquoi j'ai fait le dessin comme ça, pourquoi ce personnage a tel costume, pourquoi. Donc voilà, c'est des trucs qui peuvent intéresser. Et je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas. Quoi. Après, il faut évidemment que les auteurs
s'y prêtent.
Voilà, jouent le jeu. Et il faut qu'ils aient des choses à dire.
Ce qui est le cas de Kara.
Voilà.
Ok. On va pouvoir enchaîner sur nos questions à la con.
Ouais.
Ah.
Alors, en gros, on a prévu une série de questions à la con. On est en train de s'approcher de la fin.
Non.
Merci, ça fait plaisir. donc, on va vous donner deux mots, c'est machin ou truc. Et vous allez devoir, chacun votre tour, choisir ce qui vous tente. On va commencer par Mélanie, puis Manu, Delphine et Pen. Mathieu, je te laisse poser la première question.
RG ou Franquin ?
Franquin. Sans hésitation.
Ah, faut que je réponde à la même question.
Bah oui, c'est la même pour tous.
Franquin, c'est un maître.
Franquin, alors.
Franquin.
C'est qui, Hergé?
D'accord, ça le mérite d'être clair. Attention, alors là, c'est la question qui va être.
Question piège, là, quand
même. Question piège, parce que là je sens qu'il y a des gens qui sont intéressés. Soleil ou l'association?
Je sais pas. Il y a des bons trucs à l'association. Hein.
Ah, quand même, un peu.
Il y a des merdes genre. Chez Soleil.
Il y a des bons titres.
Elle est compliquée celle-là.
Moi, c'est clairement Soleil parce que ouais. Tout simplement, j'ai jamais acheté une BD de l'association. J'en ai plein de chez Soleil, donc il n'y a pas photo.
Soleil également, même s'il y a des trucs sympas chez l'association, je ne suis pas toujours fan de leur philosophie, disons.
D'accord.
Ouais, pareil, on a les deux à la maison. C'est vrai qu'on a plus de Soleil parce que.
Ils en font plus.
Ils en font plus, on va dire.
Oui, mais aussi.
Mais ouais, donc à choisir plutôt Soleil.
Oh, mon téléphone sonne.
Ça fait jingle en même temps.
Ça fait jingle, il est original. On va attendre un petit peu. Je pense que. Ouais. Et pour toi, celle-là
celle-là est pour moi, mais en fait, elle vient d'un lapsus que j'ai fait dans une émission précédente.
Une de nos premières émissions. Il nous a fait un lapsus superbe. Et là. La question qui se pose.
Ça, c'était rapport à l'inflation ou pas du tout?
C'est pas loin.
On n'allait pas très loin. C'était Jonah Jameson ou Jenna Jameson?
À tes souhaits, c'est qui?
Voilà, donc c'est fait.
Alors,
je pense que ça va parler surtout aux garçons. En fait.
Je vois.
Je pense que ça va parler surtout aux garçons, je sais pas pourquoi.
Jonah.
Non.
Jonah, je vois pas.
Oui, l'autre nom, apparemment.
Ouais, ouais. Bon.
Jameson le whisky.
Ah, d'autres références assez intéressantes.
Non, là vous nous avez perdu là.
Ouais, bah, c'est pas grave. Batman ou Superman?
Ah.
Batman.
Ouais, là c'est aucune hésitation, c'est Batman.
Batman aussi.
Batman. Ouais,
même si c'est pas vraiment un super héros.
Oui, là le débat est compliqué.
Voilà, par contre après il y a débat, mais bon. La question était.
C'était à moteur ou à plume?
À moteur ou à plume? Eh bien, que te dire à plume, tiens.
Moi, je vais dire moteur, ouais.
Ah bon, non, définitivement à plume.
Moteur.
Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe?
Ça dépend du dessin.
Difficile. Moi, j'aime bien le noir et blanc de luxe.
Couleur de luxe.
Et couleur de luxe également. Slip ou caleçon?
Pour les filles aussi.
Il manque string là.
Bah oui, aussi.
Définitivement caleçon.
Ouais, caleçon.
Caleçon.
Et caleçon.
Bah, blonde ou brune. Là, vous choisissez de quoi on parle. Hein.
Moi, je préfère la blonde en général.
Moi, je suis blanche.
Blanche également.
Je
préfère les brunes.
Ah non, c'était facile. Là,
c'était facile.
Xbox ou Wii?
PlayStation.
Définitivement Xbox chez moi.
Oui.
Xbox.
Là, on est vraiment dans le casual contre le core gamer.
Et oh. Oui.
Thé ou café?
Café.
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 Café. Bien.
Numérique ou traditionnel?
Tradi.
Voilà, numérique. Hein.
on a beau se dire.
Alors après, ouais, dans la BD quand même.
Traditionnel. Vintage même.
Vous leur enverrez une cassette de l'interview, comme ça elles le mettront dans leur lecteur cassette sur la bande, et puis ça leur fera les pieds. Numérique.
One shot ou saga?
Oh, bonne question. One shot.
Ouais, dur, mais au final, je crois qu'on est quand même plus marqué par des grandes sagas. Hein. Donc, je vais dire grandes sagas.
Moi, je serais plus sur le one shot parce que je trouve que les sagas, ça finit toujours par traîner un peu en longueur et qu'un bon one shot, quand même, ça marque.
Saga.
Africa.
Donald ou Howard the Duck?
Howard.
Howard
aussi.
Howard aussi.
Celui de Ron.
Qui a gâché un de mes anniversaires parce que ma mère avait loué la mauvaise cassette vidéo. On devait voir Howard the Duck, elle était revenue avec Superman. Et à l'époque, j'avais été dégoûtée.
Toriyama ou Otomo?
Otomo.
Ouais, Otomo.
Otomo.
Toriyama.
Pénible.
Protoss ou Zerg?
Oula. Ah, j'aimais bien les Zerg, moi.
Jamais été fan vraiment du jeu, quoi. Donc, bof, allez, Zerg.
Jamais été fan du jeu, mais sortez-le.
Non.
Pas de préférence.
Zerg.
Bière ou pastis?
Oh, bière.
Ouh, pastis. Là, c'est difficile, là.
Ah, ouais, hein.
Ah là, non, là, non. On peut pas choisir, là.
Ça dépend du moment.
Il faut les deux.
Ça dépend de la saison.
Bière, chips, pastis, cahuète, ça dépend ce qu'il y a. Hein.
Blur ou Oasis?
Berk, ni l'un ni l'autre.
Alors, j'étais plutôt Oasis, j'aurais tendance à pencher maintenant vers Blur, mais c'est un peu pareil que bière et pastis. Il faut des deux.
Oasis.
Oasis.
Voilà, c'est la dernière. Atari ou Amiga?
Oh. Ouh là là,
il
n'y
a pas de challenge, là. Qui...
Moi, je dis Macintosh SE30.
Ouf. Non, Amiga, soyons sérieux.
Amiga.
Atari.
Merci.
Amiga.
Non, franchement, merci, Pen, d'être de mon côté.
Et moi, je fais Charline, alors tu sais, j'ai eu ni Atari ni Amiga.
Ouais.
C'est pas possible. Les pages de garde Loadrunner sur le tome 5, on les a attendues, mais on les a eues pour Mélanie.
Sachez que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un gars qui travaillait dans une des teams qui nous faisait des superbes disquettes qu'on se passait les uns les autres. Il est du côté d'Arles. Je ne sais plus comment s'appelait la team de l'époque. Enfin, c'était des grands classiques.
I love the word team.
Non, Razor, c'est plus récent, Razor. Je ne sais plus, mais c'était énorme. Eh bien, on en a fini, je crois.
Yes.
Eh ben
yes.
Bon anniversaire quand même.
Bah merci beaucoup. Bah ouais.
Bon anniversaire.
Ça nous a fait plaisir de vous accueillir.
Il y a un gâteau, une bougie.
Bah, c'était un plaisir aussi, franchement.
Il y a une app sur son téléphone.
Ah ça va.
Ouais, non, je sais pas encore faire les apps, tout ça. Va falloir que j'apprenne un de ces quatre. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet?
Partout.
Vous êtes partout. Vous êtes. Oui, les geeks sont partout sur Internet.
Facebook, Twitter, le site.
Plus simple, c'est lesgeeks.net. De toute façon, on mettra tous les liens sur notre podcast. Et puis, de toute façon, il y a plus de chances.
Facebook. Une chaîne YouTube. Avec des trucs.
Il y a une chaîne YouTube.
Il y a une chaîne YouTube, oui, il y a des vidéos de dédicaces.
Les interviews, les interventions de Thomas. C'est vrai que l'atelier 510 où travaillent Thomas et Christian est souvent filmé par des chaînes locales comme France 3.
Tiens, d'ailleurs, je vous ai pas posé la question. Vous avez choisi de travailler avec Thomas et Christian ou...
Oui, à l'époque, moi, je travaillais avec eux, en fait, sur un autre album. J'étais assistante d'édition chez Soleil et ils venaient de finir un album. Et donc, je leur avais demandé s'ils étaient disponibles pour faire un album de plus. C'est vrai qu'ils en font toujours beaucoup en même temps, donc ça leur a pas trop posé de problème. Et ils ont fait des essais, on a eu tout de suite...
Et c'était évident.
C'était évident, en plus, c'est vrai que ça leur colle à la peau, même s'ils ont peut-être pas... J'en sais rien, ils se considéraient pas forcément comme des geeks au début, mais Thomas, c'est quand même le geek collectionneur par excellence. C'est un musée, l'atelier Saint-Sandis. Heureusement qu'il met pas tout ça chez lui, je sais pas comment c'est chez lui, mais voilà, donc il est idéal pour dessiner tous les univers de référence, et il nous tanne pour qu'on fasse des gags nostalgie, justement, pour dessiner des Waikiki et autres trucs. Autre truc de l'époque, des vieux, justement, Atari et autres trucs rétro gaming, c'est son truc, donc on va essayer d'en faire un peu plus.
Tous les détails qu'il y a dans les planches, toutes les références, c'est lui. C'est tout de lui.
C'est quasiment tout lui, des fois on demande des trucs, mais...
Nous, c'est quand c'est en rapport avec le gag et le scénar, quoi, mais après, tout ce qui est rajouté, c'est lui ou Christian quand c'est de l'incrustation couleur.
Pour un mec qui se dit pas geek...
Oui, voilà, c'est énorme.
Non, mais je pense qu'il a compris, depuis qu'il fait cette série-là, qu'il est un geek. Il ne peut plus le nier.
Si il n'a pas compris, Thomas, on te le dit, voilà, maintenant tu le sais.
T'es un geek.
Ah, la honte. Et ben merci. On espère merci nous à continuer à faire plein d'émissions encore pendant plein d'années. Merci à vous de nous écouter. Merci à tous les gens qui auront été attirés vers le podcast par nos invités prestigieux.
Ouais.
Je vais vous mettre la team belge sur le coup, je pense.
Et puis on se retrouve dans 15 jours pour une émission un peu plus normal, mais on vous promet que tout au long de l'année, on va avoir d'autres invités qui nous parleront un peu de toute cette passion qu'ils ont pour la BD et qu'on partage tous ensemble. Merci beaucoup et à bientôt.
Au revoir.
À bientôt. Merci pour l'invitation.
T'as joué à Rêve le Dragon ? C'est vraiment le jeu de rôle du geek, ça. Donc, il y avait 40 pages de calcul.
Est-ce que vous aviez toujours dans vos groupes un gars qui capte rien au fiche ?
Ça y est !
Et toi ?
On l'a, celui-là.
Le mec qui va rendre le MJ fou.
À chaque séance, faut lui expliquer les règles. Voilà, c'est la campagne qui dure depuis un an, à chaque séance, on lui explique. Ouais, on a ça, on a aussi l'optimisateur fou aussi.
Ouais, bah c'est...
Ah, oui. C'est lui qui va avoir un faucon. C'était moi. Je vais avoir un faucon. Et là, maintenant, je peux avoir un faucon ?